Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, Damien, 26 ans. Damien va parler de sa personnalité qu'il s'est forgée pour passer pour un vrai hétéro. Persuadé qu'à un moment, la couverture prendrait le pas sur sa véritable nature. Il est question de vérité, d'honnêteté envers soi-même, de coming out et d'épanouissement. C'est un échange touchant, intéressant et émouvant que je vous propose pour ce nouvel épisode. Bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Damien.
Yes.
Damien est en face de moi sur mon canapé rose et je suis trop contente de t'avoir en face de moi.
Ben moi je suis trop contente d'être ici.
On en parlait, ça fait un an qu'on se parle sur les réseaux et assez récemment tu m'as dit que ça y est, t'étais prêt pour témoigner.
Ouais.
Donc Damien, tu as 26 ans, tu connais le podcast donc je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Ah, je l'ai attendu cette question.
T'avais répété.
Tu sais, mais ça fait longtemps que j'ai réfléchi avant même de décider de faire le podcast. En fait, il y a, je pense, comme beaucoup de gens, beaucoup de souvenirs. Mais si j'essaye de trouver vraiment le souvenir lié à la sexualité, je dirais que c'est ma mère en fait qui a créé, malgré elle, ma première masturbation.
Ok.
Parce que du coup, quand j'étais petit, je pense que je devais avoir 10-11 ans, on avait un livre dans les toilettes qu'elle avait pris à la bibliothèque et qui parlait de comment gérer son ado, etc.
C'était pour toi, tes frères et sœurs ?
Je pense, moi ou mes frères et sœurs, parce que j'ai une sœur qui est très proche de moi en âge. Mm-hmm. Et du coup, il y avait un paragraphe sur la sexualité et qui en fait parlait de si vous avez un petit garçon, comment vous faites si vous le trouvez en train de se masturber dans sa chambre ou ce genre de choses. Et en fait, j'y avais jamais pensé avant. Et j'ai lu ce paragraphe et je me suis dit, ah mais ouais, en fait, je peux... j'avais capté qu'il se passait un truc, que je pouvais faire quelque chose, mais je m'étais jamais...
J'avais trop penché sur la question, quoi.
Ouais, et en fait, j'ai trouvé ce livre et je me suis dit,
allez, go.
Je vais essayer.
C'était comment chez toi, on parlait librement de sexualité ?
On parlait de sexualité, mais pas sérieusement. Mmh. Moi, je viens de la campagne et du coup, c'était un peu... tu vois, j'avais un père qui faisait beaucoup de blagues sur la sexualité, sur les femmes, quand on regardait des émissions de télé, etc. Donc c'était un sujet dont on parlait, mais en fait on ne nous parlait pas de sexualité directement pour nous dire comment ça se passe, est-ce que vous avez des problèmes, ce genre de choses, puisque j'ai un frère et une sœur, et je ne crois pas, enfin en tout cas on n'a jamais eu cette... Et nos parents n'ont pas vraiment...
Ton père n'est jamais venu te voir, te poser des questions sur ta sexualité ou...
Non, jamais. Ma mère un petit peu plus, mon père n'était pas hyper proche de nous, très présent, enfin il s'est toujours assuré qu'on ait tous ce dont on avait besoin, mais pas présent émotionnellement,
plus
je dirais.
Plus un père qu'un papa, quoi.
Ouais, voilà, exactement. Et avec ma mère un petit peu plus, mais plus sur des... tu vois, quand t'es petit, des fois, t'as des rougeurs ou des trucs comme ça, et du coup, tu lui poses... T'es plus le côté anatomique, je pense, que le côté... sexuelle, vraiment.
Et la prévention, préservatif, etc., c'était avec elle ou...
Avec personne.
Plutôt l'école, du coup ?
Ouais, ouais, exactement.
Et comment ça se passe, justement, au collège, quand t'arrives à la puberté, ton corps, comment toi, tu gères ça ?
Je sais pas si je spoil maintenant ou pas une des infos du podcast, mais du coup, aujourd'hui, je suis homosexuel et du coup, je l'ai découvert assez tardivement. Et en fait, ce qui fait qu'à la puberté, c'était assez spécial parce que j'ai changé, ça s'est plutôt bien passé.
T'as grandi vite parce que t'es très grand.
Ouais,
hein.
J'ai grandi très vite.
Tu fais 1m combien ?
95. Ah. Et du coup, au collège, j'étais plutôt petit et plutôt gros, ce qui paraît, j'imagine, incroyable quand tu me vois.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, j'étais assez complexé au début du collège et j'avais très peu de succès avec les filles. Et à cette époque-là, j'allais pas du tout vers les garçons non plus. Donc,
ça t'avait pas effleuré ? C'est que tu ne savais pas que ça existait ? Tu dis que t'as grandi à la campagne, donc... Est-ce qu'il y avait, des homosexuels dans ton entourage ? Est-ce qu'on en parlait ?
Il y en avait dans mon entourage. Il y a un des cousins de ma famille, un cousin éloigné qui est homosexuel, mais qui a aussi le sida. Et du coup, pour moi, depuis l'enfance, c'était vraiment, pour moi, les homosexuels, c'était le sida.
Le VIH, ouais.
Ouais, le VIH. Et on parlait souvent de ce gars-là en disant, le discours de mes parents, c'était il a fait des conneries quand il était petit. Enfin, quand il était jeune, et il a attrapé le VIH. Bon, visiblement, c'est parce qu'il se droguait, etc. Donc, effectivement, il a peut-être un petit peu fait des conneries. Mais moi, forcément, j'avais compris ça comme être homosexuel, c'est faire une bêtise.
C'était la conséquence logique de cette sexualité.
Ouais.
C'est traumatisant, ça, quand même. Hein.
Je sais pas si ça m'a traumatisé, je l'ai jamais perçu comme tel. En tout cas, j'avais une perception bizarre. Enfin, en fait, il me faisait peur parce que bah, physiquement, il était assez affaibli, etc.
Ah oui, il était malade.
Ouais,
d'accord.
Tout à fait.
Il n'était pas seulement séropositif.
Non, du coup, voilà, c'était un peu, j'avais l'impression, un sujet tabou dans ma famille. Après, je suis pas sûr que ça ait beaucoup conditionné tout ça. Je pense, à partir du milieu du collège, donc vers, je sais plus quel âge on a, mais 11-12 ans à peu près, j'ai commencé à. Bah, je regardais des pornos avec des hommes.
D'accord.
Exclusivement, donc des
pornos
gays.
Comment c'est arrivé ?
Ça, je sais plus vraiment.
C'était chez toi ?
C'était chez moi. J'essaie de réfléchir à comment.
Oui, parce que 26 ans, donc t'as l'ordinateur à la maison, peut-être même dans ta chambre déjà.
Ouais, j'avais un ordinateur dans ma chambre, la chance.
Grave.
Souvent dans les épisodes, je sais qu'il y en a qui n'ont pas eu cette chance.
Les trentenaires, c'est la VHS de papa. Hein.
Ouais, voilà. Moi, non. Honnêtement, je sais plus. Je pense que c'est une suggestion, à mon avis, sur un site, tu vois, où je me suis dit, bah vas-y, je vais cliquer. Et puis.
Donc t'es au milieu du collège ?
Ouais. Du coup, je vais faire un peu un throwback, mais en fait, je repense à un truc. Quand j'étais tout enfant, je me rappelle, une fois, mais là, j'étais vraiment petit, il y avait eu, je sais plus, on était dans un événement avec ma famille, je sais plus ce que c'était, et il y avait un garçon qui me... Enfin, en fait, je savais pas qu'il me plaisait, mais il y avait un mec qui devait avoir 25 ans, moi, j'étais un enfant, et je le trouvais beau, et mais je savais pas définir ce que c'était parce que j'étais petit.
Oui, t'avais l'émoi du petit, de l'enfant devant.
Mais je me suis dit, cette personne, elle a quelque chose de spécial et je la connaissais pas et je l'ai jamais revue et voilà. Et du coup, je pense que ça m'avait toujours un petit peu trotté, mais en fait, pendant des années et jusqu'à, on y viendra, mais jusqu'à plus grand, en fait, j'ai toujours cultivé cette part de moi. Je regardais des pornos gays, je me masturbais dessus, etc. Mais en fait, je me disais juste, c'est pas maintenant. Enfin, je pense que c'était...
T'avais vraiment scindé les deux choses.
Ouais, et ça m'est pas venu naturellement et j'en parlais à personne et j'avais pas l'impression de faire quelque chose de mal. Mais d'un autre côté, j'en parlais pas non plus.
Pas avec les copains, jamais ?
Non, jamais.
Ok.
Et au collège, j'avais plutôt des copains, plutôt le côté hétéronormé. J'avais beaucoup de copains qui faisaient du foot. Donc tu vois, le cliché des mecs qui sortaient avec toutes les filles du collège... Et moi, j'étais un peu le pote qui sortait, enfin qui essayait, mais qui se prenait des gros râteaux.
Mais aucun jamais ne t'a. Parce que ça peut arriver aussi que ce soit les copains qui décident.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En tout cas, qui t'a out sans que tu l'aies décidé ou même que tu l'aies compris ?
Si, il y a eu une fois... au collège, j'avais un très bon copain avec qui j'étais tout le temps, etc., et qui était un peu mon meilleur copain dans cette bande. Et du coup, on était assez proches, même assez tactiles. Je me souviens qu'une fois, on attendait pour aller en sport et on se tenait par le bras, je crois, enfin par l'épaule, un truc comme ça. Et il y avait un de nos potes qui est arrivé qui avait dit: Ah, mais Damien, c'est un gay, regardez comment il tient, etc. Et je l'avais hyper mal vécu. Enfin, direct, je m'étais mis sur la défensive parce que je pense qu'à l'époque, je savais même pas. Ce que ça voulait dire, si, mais je l'ai perçu comme une insulte, et ça en était une. En tout cas, dans sa manière de le dire, ça en était une.
Et puis d'autant plus que si tu avais aussi, toi, cette petite vie secrète parallèle, ça te ramenait, tu sais, c'était ton petit truc à toi qu'il exposait, quoi.
Ouais, exactement. Et en fait, moi, je me définissais pas comme tel, malgré cette vie parallèle. Bah, je me suis juste senti insulté, mais comme s'il m'avait dit une autre insulte, en fait, même si j'avais pas eu cette vie à côté, ça... Je me suis direct dit, mais non, pas du tout. Et ça a un peu été l'épisode où, enfin, je me rappelle, j'en ai voulu pendant très longtemps. Aujourd'hui, des fois, je le reparle alors qu'on a des vies complètement différentes et c'est totalement... Ça a disparu, quoi, mais ça avait été un peu... Je pense ça, pour le coup, m'avait un petit peu traumatisé.
Ça t'a marqué.
Ouais. Et puis, du coup, ça a créé aussi un... Bah, tu vois, ça a créé un précédent. Enfin, après, du coup, les gens qui étaient là autour, qui l'ont entendu et...
Ça a créé une rumeur ?
Ouais, je pense pas. Je sais pas, ça a créé une rumeur dans le collège, peut-être, je l'ai jamais su. En tout cas, dans la classe, bah, voilà, c'était un peu un incident. Et moi, après, du coup, je l'avais fait. J'étais allé me plaindre à la vie scolaire et tout. Enfin, j'avais été assez.
Et donc, comment ça se passe après avec les premiers flirts, les premiers moments où bah, tu commences à.
Bah, du coup, collège calme plat. J'ai essayé de séduire beaucoup de filles, mais elles n'ont pas été séduites, visiblement. Et je pense que maintenant, a posteriori, je me dis, je pense que je... En tout cas, je ne correspondais pas au canon de la masculinité. Qui... Enfin, tous les garçons qui étaient autour de moi ne me ressemblaient pas. Ils étaient très sportifs, très... Ils se battaient, ils étaient passionnés de jeux vidéo.
Et toi, pas du tout.
Et moi, pas vraiment. J'avais plein d'autres passions qui ne sont pas forcément des passions féminines. Je n'ai pas du tout envie de faire des catégories aujourd'hui. Clichés. Mais pour entrer dans le cliché, je ne faisais pas de la couture. Mais tu vois, j'étais plus, par exemple, typiquement, j'étais plus sport individuel. J'ai fait du tennis, de l'escalade, plutôt que sport collectif où tu es entre mecs et tu fais ton truc tous les week-ends, etc.
Donc pas de flirt au collège.
Non, des flirts mais sans pas de petites copines au collège quoi.
Ok. Et donc t'arrives au lycée.
Lycée, grand changement parce que tu repars de zéro un petit peu. Tu te fais de nouveaux amis et du coup tu repars. Bah un justement peu, ouais. T'as pas ce passé qui s'est créé dans le collège. Bah là tu le remets à zéro. Tu remets les compteurs à zéro. Et moi, j'ai fait un bac littéraire, donc c'est quand même...
Qu'avec des filles.
Voilà, un univers... Bah, bizarrement, dans ma promo, enfin au lycée, on ne dit pas promo, mais il y avait beaucoup de garçons. Mais c'est plutôt des garçons, tu vois, artistes ou...
Avec les cheveux longs.
Voilà, donc du coup, c'est pas forcément... Je me sentais plus à l'aise dans cet univers-là, pour le coup. Et donc là, j'ai eu ma première... c'était pas ma copine, mais c'était un petit peu compliqué. C'est une amie qui est devenue... pour moi, une amoureuse, pour elle, je ne suis pas sûr qu'on était sur de l'amour. Mais en tout cas, quand je regarde tout ça a posteriori, je pense que c'est la première femme que j'ai aimée.
Donc, c'est ta copine de classe et en fait, tu nourris des sentiments romantiques et amoureux pour elle.
Ouais, c'est la première fois où j'embrasse une fille langoureusement au lycée, en seconde. Et je me rappelle que c'était assez incroyable. Enfin, je me rappelle, ça a provoqué des choses dans mon corps. J'ai eu chaud tout d'un coup et je me suis dit... Enfin, c'était vraiment bizarre et... Bah, c'était la première fois, quoi. Alors que c'était plutôt vanille.
Oui, mais en même temps, le premier baiser, ça reste... Je pense que beaucoup, beaucoup de gens se rappellent de leur premier baiser, tu vois. C'est quand même c'est un changement d'état. Tu passes d'un ado pubère qui est un peu, voilà, entre deux os, entre l'enfance et l'adolescence, à tu rentres dans autre chose. Tu rentres dans un début de vie sexuelle et d'activité sexuelle. Donc, c'est quand même... c'est fort.
Bah voilà, c'est le souvenir que j'en garde.
D'accord. Donc cette jeune fille, c'est quoi ? Vous avez une petite histoire ? Comment ça se...
Ouais, en fait, c'était notre... on était vraiment un groupe d'amis dont on était très proches. Et elle avait gardé son groupe d'amis dans sa ville natale. Elle avait un copain là-bas et moi dans ce lycée. Et du coup, elle maintenait cette idée que c'était pas vraiment défini, notre relation. Et donc ça a duré pendant plusieurs mois et l'ambiguïté a duré pendant des années. Même quand on est arrivé à la fac, on en parlera après, mais ça a duré très longtemps.
Et vous avez concrétisé un peu plus que des baisers langoureux ?
On a joué à touche pipi, on va dire. On faisait beaucoup de soirées dans des tentes, etc. Donc ça a été ce type de rapprochement, mais toujours avec des gens autour de nous. Donc il n'y a jamais eu plus que...
Quelques caresses,
voilà, etc. Quelques caresses, etc.
Et tu continuais en parallèle, à regarder du porno gay, à...
Je pense, ouais. Je pense que ça avait un peu dû mettre un stop. Et puis au final, cette histoire s'est... Enfin, ben voilà, petit à petit, moi j'en ai eu marre d'être la seconde roue du carrosse. Et du coup, ça s'est terminé. Et puis au final, ça a continué. Enfin, on est restés très amis pendant tout le lycée. Et à la fac, on a pris deux chambres étudiantes dans la même résidence. On était à côté. Et il y a toujours eu cette petite ambiguïté où des fois en soirée on serait embrassé.
D'accord.
Tu vois un petit peu là.
Mais vous n'êtes jamais allé plus loin.
Non. Okay. Mais voilà, c'est resté cette copine. Je pense que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont copine ou copain avec qui ça dérape de temps en temps. Mais avec moi, ça ne dérapait pas sexuellement. Mais,
Donc tu as cette jeune fille qui prend beaucoup de place du coup amoureusement pour toi. Et donc tu traverses le lycée. Comment toi tu te sens dans ton corps ? Tu mieux à ce moment-là ?
Ouais, mieux. Le fait de grandir, ça m'a bien aidé. J'ai grandi au milieu du collège à peu près. Bah du coup, ça c'est bienvenu dans l'adolescence, mais j'étais complexé d'être petit et gros. Et quand je suis devenu très grand, j'étais complexé aussi parce que moi j'avais des difficultés à m'habiller. Et puis j'avais pas le même corps que les autres garçons. J'étais très grand. Et puis du coup, t'as des boutons et t'as les cheveux longs et tu t'habilles mal et pas hyper à l'aise, mais beaucoup mieux qu'avant. Tu vois, maintenant quand je repense à toutes ces périodes, le collège, j'ai plutôt un avis négatif dessus. Le lycée, je en garde un très bon souvenir.
Quand tu arrives à la fac, alors comment ça se passe en plus ?
Et du coup, je reviens en arrière encore une fois, mais c'est marrant parce que l'histoire s'est répétée un petit peu au lycée. Quand j'étais en terminale, On en a pas trop parlé, mais du coup il y avait peu de gens gays dans le lycée.
Ouais, bah,
enfin, il y en avait sûrement plein,
oui.
Mais
oui, comme tout partout, voilà. Il y en a forcément, mais pas
mais
forcément su.
Je pense qu'il y avait deux garçons officiellement gays que tout le monde connaissait dans le lycée et quelques filles. Et un de ces garçons, quand j'étais en terminale, a envoyé ses copines pour venir me dire que je lui plaisais. Oh, et en fait, lui, pour le coup, correspondait vraiment au
cliché.
En tout cas, moi, le cliché que je me faisais à cette époque-là de l'homosexuel, il ressemblait beaucoup, je pense qu'il cultivait ça, il ressemblait beaucoup à, je sais plus, c'est Thomas de Secret Story, qui se faisait appeler la Josiane.
Oui.
Et en fait, c'était sa copie conforme. Et du coup, là, encore une fois, ça m'a... Là, pour le coup, je pense que je commençais à devenir conscient que vraiment, ça me plaisait un petit peu ce côté-là,
mm-hmm.
sans toujours m'autoriser à y aller. Et du coup, là, pour le coup, je m'étais senti affiché en mode « bon, bah, lui, il a compris ». Et des fois, on se croisait, il y avait des eye contact et je me disais bah, « il sait ce que moi, je ne sais pas encore, mais en tout cas, il capte un truc ». J'ai nié dit à ses copines « non, mais
ah,
même
non,
pas en rêve, vous me prenez pour qui ?» C'est dommage parce que je pense que je lui ai fait un petit peu du mal.
Mais c'est marrant parce que tu as eu quand même ces gens qui, pour toi, en tout cas, sont allés tu vois, sur cette part de toi sans... assez naturellement finalement et qu'il est bon voilà toi t'as décidé de verrouiller ça, mais c'est fou comme quoi parfois la perception des autres est assez réelle quoi par rapport à celle qu'on s'autorise.
Clairement.
Donc du coup t'arrives à la fac, comment ça se passe alors à ce moment-là?
Eh ben la fac
donc t'es toujours vierge?
Ouais toujours, et c'est reparti, on re-efface le tableau. Et là donc j'ai fait des études de com, donc rebelote beaucoup de filles. Bah là j'ai vraiment poussé le côté, enfin j'ai essayé de pousser mon côté hétéro et de paraître comme le mec qui avait eu plein d'histoires au lycée.
Okay. Et ta pote elle t'affichait pas, elle était dans ton...
Non, on n'était pas dans les mêmes études.
D'accord.
Donc du coup et on avait vraiment des amis séparés,
d'accord,
etc.
D'accord. Elle aurait pu te dire.
Ouais.
Moi j'étais.
Moi je sais. Non, elle m'a pas affiché.
Donc
et
t'as
du
cultivé
coup,
ça.
Ouais, j'ai cultivé ça jusqu'à mon coming out. Personne n'a jamais su que j'étais arrivé à la fac vierge et.
D'accord.
Et que en fait tout ça c'était des mensonges.
Pourquoi tu penses que parce que au collège je peux comprendre le voilà c'est compliqué, au lycée bon t'es encore en construction, mais quand t'arrives à la fac avec un dans la com, pas faire des gros raccourcis, mais qui est assez open. Pourquoi tu t'es senti obligé de garder cette posture d'homme hétéro?
Excellente question. Je pense, j'ai un caractère où je suis assez... je suis très exigeant envers moi-même,
mm-hmm.
je pense, du fait de cette histoire et personnelle. Et du coup, à cette époque-là, j'ai beaucoup lâché aujourd'hui, mais je cultivais vraiment une image de l'homme idéal... Bah, du coup, l'homme idéal, malheureusement, hétérosexuel.
À tes yeux.
À mes yeux, à ce moment-là. L'homme hétérosexuel qui a eu beaucoup de conquêtes, qui a séduit tout son lycée, etc.
L'homme à femme, etc.
Voilà. Et du coup, j'avais pas envie de. J'avais l'impression que ça allait être décevoir les gens, peut-être. J'en étais pas conscient. Là, je te le dis maintenant, après des
avec
années de déconstruction, mais à cette époque-là, c'est pas comme ça que je pensais. Mais en fait, j'avais peur de décevoir et j'avais surtout très envie d'impressionner en arrivant et de me dire, bah, jusqu'à présent, j'ai pas pu. J'ai pas pu briller parce que j'ai été contenu et on m'a mis dans des cases, etc. Et donc, je me suis dit, bon, ben là, c'est ma chance et je connais personne et je vais y arriver. Et au fond de moi, ça, par contre, je me rappelle, je gardais l'espoir quelque part. Enfin, je me disais, mais non, je vais être hétérosexuel. Ça, c'est juste mon délire comme ça quand je suis tout seul. Mais je continue à me dire, je veux être avec des filles. Et les filles me plaisaient. Enfin, quand je suis arrivé à la fac, j'avais envie d'être avec des meufs, quoi.
Et par rapport à ton histoire familiale, t'avais pas non plus cette crainte de décevoir tes parents ?
Je pense beaucoup. Je me posais pas la question, je me suis posé la question quand j'y ai été vraiment confronté.
Mm-hmm.
Mais je pense, bah, j'ai grandi vraiment dans un schéma où bah, mes parents se sont rencontrés très jeunes, se sont mariés, ont eu des enfants, etc. Mon frère et ma sœur, pareil.
Mm.
Enfin, j'avais aucun exemple d'autres voix homosexuelles ou d'autres voix aussi, enfin, transgenre. Tout type de voix différentes de l'hétérosexualité.
Qui sont en plus hyper invisibilisées dans les médias.
C'est ce que j'allais dire. J'avais pas non plus du tout d'exemple dans les films. En plus, on était très peu... déjà qu'il n'y a pas d'exemple dans les films, la culture pop, etc. On était très peu à la maison. On était très tournés vers la nature, etc. Donc, on ne vivait pas non plus dans cet univers de séries, de gros films, etc. Où j'aurais pu peut-être voir des exemples.
Ouais, et encore les exemples
et
dont
encore,
tu parles, ils sont hyper clichés aussi. Souvent les hommes homos sont très efféminés et ont des, comme tu disais, voilà, c'est des clichés. Et les femmes lesbiennes sont souvent très masculines, etc. Donc même quand il y a un peu de visibilité, ça reste hyper cliché et hyper stéréotypé. Donc
clairement.
C'est difficile de se retrouver.
Et moi, bah du coup, ces clichés-là, c'était tout ce qui était décrié chez moi. Et devant la télé, bah, c'était pas rare que mon père ou mon frère disent « Ah, mais eux, c'est des PD, ta fiole, etc. » Et du coup, en fait, c'est... Je pense que je l'imaginais même pas. Enfin, j'imaginais même pas qu'un jour je puisse correspondre à ça, parce qu'en fait, c'est hyper dur de se dire. Enfin, j'ai lu ça dans un livre, mais je ne me rappelle plus de l'auteur, qui dit que en fait, être homosexuel, ça commence par l'insulte. Enfin, la première chose qui te définit, c'est une insulte quand t'es petit.
Toi, dans ton histoire familiale, c'est et l'insulte et quelqu'un qui en plus a joué avec sa vie, est malade, etc. Ouais. Même si on parle pas de traumatisme, ça reste quand même une empreinte d'enfant d'entendre ça.
Ouais.
Dans, toi, t'avais, enfin, sur le plateau, c'était entre ton père et ton frère qui le disaient, j'imagine sans méchanceté, mais qui le disaient, ta fiole, sale pédale, etc. Et un cousin qui était dans un état de santé, qui avait une issue comme triste.
Ouais.
C'est compliqué de se dire qu'on fait partie de cette, je mets des guillemets, communauté.
Ouais, c'est clair. Et alors que, comme tu le dis, tu vois, c'est justement, c'était pas non plus. J'ai jamais senti de la haine de mes parents envers les homosexuels.
J'imagine que comme beaucoup de gens, c'est pas du tout méchant.
Ouais, c'était plus le bail répété socialement, ce qui, enfin voilà, le béaba de la personne lambda.
C'est pour ça qu'on peut pas en vouloir. On peut en vouloir juste les gens qui ont ces réactions de peur et de haine, parce que ça se construit et ça s'alimente. Mais c'est vrai que souvent ces schémas-là, c'est comme tu dis, c'est répété et c'est sans réflexion aucune, quoi.
Ouais. Mais ouais. C'est pas pour autant plus facile.
Ah non, pas
mais,
du tout.
Mais ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je leur en veux pas. Quand j'ai fait mon coming out, on va en parler tout à l'heure, je pense. Je leur en ai voulu au début de la réaction, bien etc. Sûr. Mais je les ai assez vite pardonnés parce que j'ai compris leur position et il n'y a quand même pas eu de haine et j'en ai jamais senti plus jeune, etc. Donc.
Donc, à la fac, donc tu essaies d'être ce jeune garçon brillant, homme à femme, etc. Comment t'arrives à concrétiser avec certaines filles ?
Toujours pas. Enfin, si, la fac, c'est long, mais la première année, elle écoutera ce podcast, donc c'est marrant. J'essaye de séduire très maladroitement une fille qui aujourd'hui est ma meilleure amie.
Mm-hmm.
Et justement, parce que je me dis, non, mais c'est bon, je peux y aller cash, de toute façon, je suis hyper séduisant, j'y vais, quoi.
Auto-persuasion.
Et en fait, non, pas du tout. Enfin, non pas que je sois pas séduisant. Aujourd'hui, on en parle de manière très détendue. Et elle me dit, t'es juste allé trop vite et j'ai juste eu peur.
Trop cash, quoi, ouais.
Ouais. Et du coup, toujours pas. Après, je flirte avec pas mal de filles. J'étais dans le bureau des étudiants. Du coup, j'organisais les soirées.
Meilleur poste.
Ah, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Et d'un autre côté, ça me forçait à rentrer encore plus dans mon mensonge. Parce que quand t'es au BDE, tu fais beaucoup de soirées. Mmh. Où tu fais des jeux avec des « je n'ai jamais, j'ai déjà, je raconte ma vie sexuelle à la terre entière ».
Donc en fait, t'as inventé tout ça.
Et moi, j'ai inventé tout.
Mais tu te nourrissais où tu c'est quoi tu piquais des anecdotes de potes? Comment tu...
Je pense, ouais, que j'en piquais un petit peu. Je restais quand même en surface et je pense volontairement, je surjouais pour que justement on me pose pas de questions et on se dise, lui, c'est bon, ça roule, donc on va pas aller creuser.
D'accord, t'essayais de maintenir le mensonge de façon pas trop en détail pour pas qu'on te demande trop et que tu te grilles, mais tu y allais quand même, quoi.
Ouais, et vraiment, c'est... Enfin, maintenant, tu vois, quand j'y repense, je me dis, mais... Quelle connerie.
Quel comédien.
Ouais, quel comédien. J'étais plutôt bon. Enfin, je sais pas si les gens y ont cru.
Personne t'a grillé jamais ?
Personne m'en a parlé. Mes amis très proches, ceux qui restaient du lycée encore, quand on était à la fac, on commençait à me dire, mais tu serais pas gay. Parce que du coup, ils voyaient que j'étais avec beaucoup de filles et que j'avais cette posture-là, etc. Et eux me connaissaient d'avant, donc ils savaient qu'il n'y avait pas eu de...
Oui, toutes ces histoires-là.
Voilà. C'est assez violent, en fait, quand t'es... Enfin, violent, j'ai vécu d'autres choses plus violentes, mais en fait, les gens veulent te faire donner une réponse que toi-même, tu t'es pas encore donnée.
C'est très difficile, ça.
Ouais, quand on me posait la question, ben, je disais non. Et là, quand mes vrais amis me l'ont posé à la fac, là, pour le coup, je me souviens que dans ma tête, je me suis dit, je sais pas.
Ouais, c'était déjà un pas, hein.
Ouais, j'ai commencé à me dire, j'ai répondu non, évidemment. mais dans ma tête, je me suis dit, je sais pas si c'est vraiment non. Mais sans toujours le définir.
Tu repensais à ce petit Damien qui avait vu ce jeune homme de 25 ans et qui était tout petit.
Exactement. Dit, et je commençais à me dire, ben mine de rien, voilà, il y a quand même eu ça.
Il y a eu des petits signaux, quoi.
Et à la fac, il y avait quand même des mecs qui me plaisaient, où là, pour le coup, je l'identifiais qui me plaisaient.
Plaisait, c'est ça ? T'avais un trouble quand tu les voyais ? Tu les trouvais sexy ? Tu les trouvais beaux ?
Alors, je les trouvais beaux, mais je me disais, C'est ouf comment on peut se mentir. Parce que j'ai envie d'être comme eux.
D'accord.
C'était souvent des mecs assez baraqués, assez sportifs, etc. Moi, je ne l'étais pas trop. Et du coup, je me disais toujours, mais en fait, c'est parce que j'ai envie d'atteindre cet idéal-là. Et je ne me disais pas encore, c'est parce que j'ai envie de me les faire. Quoi.
Juste envie de le croquer. Je comprends. Et donc, tu continues ce mensonge, donc tu t'enfonces un peu dedans pendant ces années de fac. Comment tu vas, à un moment donné, concrétiser.
Bah, c'est allé très vite au final. J'aurais essayé avec d'autres filles, j'ai d'autres histoires avec des filles. Et
donc
surtout.
Des flirts, toujours ?
Ouais, des flirts, toujours pas de sexe. T'es clairement comme beaucoup de mecs à cette époque qui sont encore puceaux, en mode il faut que je le fasse, il faut que je trouve à tout prix quelqu'un. Enfin voilà, il faut que j'y arrive.
Alors que chaque chose en son temps.
Exactement, maintenant je me dis, mais je suis si heureux que ça ait mis du temps parce que quand ça s'est passé, bah, c'était dans les bonnes conditions. Même si à l'époque, ça m'aurait soulagé d'un poids que je me mettais et qu'aujourd'hui,
ouais,
je trouve...
Qu'on se met soi-même. Hein.
C'est
vraiment,
et qui est ridicule. Et vraiment, à tous ceux qui écouteront cet épisode, mais prenez le temps et en fait...
Pas de pression.
Voilà. Du coup, à la fac, ce qui se passe par contre, c'est que je deviens aussi très ami avec un mec et qui du coup est gay. Chose que je ne découvre que très tardivement alors que visiblement...
Dans votre relation amicale, ouais.
Ouais, alors que ça sautait aux yeux de tout le monde, visiblement. Il avait un style qu'il a toujours d'ailleurs et que j'adore, très coloré, très différent des autres mecs de la promo.
Et quand vous parliez jamais de fleurs, de copains, de copines, de choses comme ça ?
Et bah, du coup, au bout d'un moment, si, un jour on a fait une soirée, je suis rentré dans son appart, j'ai vu des posters de mecs sur les murs. Je me suis pas encore dit qu'il était gay, je me suis dit ah ok, j'avais occulté le sujet et au bout d'un moment quand il a dit mon ex et qu'il a commencé à parler au masculin, je me suis dit et je l'avais vraiment occulté.
Alors que tout le monde était...
Ah bah tout le monde savait et à cette soirée justement tout le monde avait dit mais Damien enfin c'est évident, tu t'en étais pas encore rendu compte et j'avais dit bah non. Et il se passe rien mais c'est le premier exemple que j'aurai. Il sera certainement très content d'entendre ça, mais c'est le premier garçon gay que je vois et où je me dis, aïe, il est cool et les gens se moquent pas de lui. Et tu vois, comparé au mec du lycée qui était très cliché et qui était assez mal vu dans le lycée, là, c'était la star de la promo, tout le monde l'adorait, hyper cool.
Et il avait l'air bien dans ses baskets.
Ouais, et voilà, et lui, il avait fait son coming out et en fait, ça a commencé à me donner envie. Enfin, je me suis dit...
C'est possible
et ça a pas l'air si terrible finalement. Et je pense qu'il a beaucoup joué le rôle de me faire dire c'est possible et peut-être que je vais y arriver moi aussi.
Et t'as rassuré en tout cas.
Ouais, et c'est peut-être que je serai tout aussi cool finalement et que j'ai pas besoin d'inventer tous ces mensonges pour rester quelqu'un de cool.
Et tu as parlé à ce moment-là à quelqu'un de tes doutes, qui commencent à être des doutes ?
Non, toujours pas.
C'est lourd hein, quand même. Hein.
Bah ouais, maintenant quand j'y pense, après tu vois, ça m'a jamais fait souffrir. Enfin, Du coup, je dois être un peu mythomane, mais j'ai jamais...
Non, sans être mythomane, mais je pense que tu as verrouillé pas mal de choses pour pas justement te créer des émotions trop négatives. Parce que, comme tu dis, t'es exigeante, t'as envie de réussir. Peut-être que c'est toi-même, tu t'es conditionné pour pas te faire de mal.
Je pense, ouais. Et du coup, ça m'a pas fait de mal, honnêtement. Enfin, en tout cas, je l'ai pas perçu comme tel.
Pas une grosse souffrance, quoi.
Non, je me rappelle pas de soirée à pleurer et à me dire... Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Enfin, vraiment, ça m'allait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ?
T'as ce pote ?
Ouais, j'ai ce pote. Et du coup, bah, notre vie se passe. À la fac, on fait nos deux premières années ensemble. Tout se passe normalement. Je continue à faire ma petite vie de faux hétéro. Et puis, en licence, du coup, je fais une troisième année où on se sépare un petit peu tous. Et là, bah, je recommence à me dire, c'est parti, je suis toujours hétéro. Et c'était assez marrant, à chaque fois que je rentrais dans une nouvelle promo, j'avais tendance à essayer à aller vers les garçons pour très vite m'en faire des potes et me dire j'en ai marre d'être pote qu'avec des filles. Et en fait, je pense que je me disais si je suis pote avec des mecs, bah, peut-être que ça m'amènera vers le fait d'être hétéro, tu vois.
C'est pas contagieux.
Et non.
L'homosexualité et l'hétérosexualité ne sont pas contagieuses.
Voilà, ce n'est ni une maladie, ni d'un côté, ni de l'autre.
C'est ça, on est comme ça, on est comme ça.
Du coup, dans cette troisième année, bah, je me fais très pote avec un garçon. Et je me rappelle, j'étais très fier de dire à une fille que j'avais essayé de choper la première année. Et une autre fille, ils sont toujours mes deux meilleures amies aujourd'hui. Et je me rappelle, j'étais hyper fier de leur dire « Ouais, je me suis fait pote avec lui, c'est un mec, il est comme ça, nanani. » Et de valoriser ce côté, j'ai des potes mecs, vous avez vu.
Genre des vrais, quoi.
Ouais, voilà, des vrais potes mecs. Mais qui, au final, restaient des mecs à partir de la fac qui n'étaient pas les mecs pareil clichés de l'hétérosexualité. Et donc, je fais ma troisième année, j'ai cette petite bande. Et dans cette bande, il y a une meuf qui commence à m'intéresser et où on est potes, mais où justement, encore une fois, je pense par facilité dans tout ce contexte que je suis en train de raconter, je me dis, bon, ben, on est potes, donc ça me permettra de... Enfin, je vais commencer à la séduire gentiment, quoi. Donc, je vais y aller plus doucement. Et en fait, dans l'été, entre cette troisième année et la quatrième année, il y a un moment donné où quand même, je pense que me vient, par des amis pareils qui vont voir ce type de professionnel, me vient l'idée de me dire, je pense qu'il y a quand même un truc qui bloque. Enfin, tu vois, je commençais à bosser. J'ai bossé très tôt, dès mes premières années d'études, dans le secteur où je voulais bosser plus tard, mm-hmm. pour me faire une expérience. Donc, je commençais à avoir une vie où je gagnais de l'argent.
Puis, tu étais dans le monde des adultes.
Ouais, dans le monde des adultes. Et je sentais qu'il y avait un truc qui basculait pas.
Est-ce que tu continuais en parallèle à regarder du porno gay ?
Ouais.
Tu te masturbais sur les garçons ?
Ouais.
Mais t'arrivais pas à...
Et j'arrivais pas à passer l'étape. Et dans ma tête, je me disais pas que c'était ça qui bloquait.
Et tu commençais à avoir une frustration sur ta virginité,
sur la virginité, ouais, beaucoup.
Ouais.
J'en avais vraiment envie et j'étais très gênée, de plus en plus gênée de me dire que je mentais. Et surtout, je commençais à me dire que ça arrivera jamais.
Puis en plus, tu mentais à tes amis, enfin des gens, tu vois, c'était pas que social, genre...
Et ouais.
Avec les gens avec qui tu passais vraiment... ton temps, et normalement il y a la sincérité qui doit s'installer dans des valeurs amicales.
Et en grandissant, en plus, moi en tout cas dans mon expérience, mes amis devenaient des amis de plus en plus proches et tu deviens plus grand, tu te confies plus de choses, t'as plus confiance, c'est beaucoup moins éphémère que quand t'es plus jeune.
Donc tout ce pan là tu pouvais pas partager, quoi.
Et non, je pouvais pas partager tout ça, donc je l'ai gardé pour moi très longtemps.
Tes amis voyaient des psys?
Ouais, une amie qui voyait très régulièrement un kinésiologue et qui me dit, moi ça me débloque beaucoup, avait beaucoup de problèmes avec sa famille, etc.
Alors un kinésiologie, c'est l'approche par les réactions du corps sur des blocages et des traumatismes qu'on a vécu, et il y a une lecture. Alors parfois les kinésiologues, on mélange un peu du Reiki, donc l'énergie qui est une médecine d'Asie sur les énergies, parfois de la médecine chinoise sur les points d'acupuncture, etc. Et la kinésiologie, c'est ça, c'est les traumatismes par le corps.
Exactement. Et moi, je pense que j'en avais pas mal. En tout cas, mon corps a parlé. J'ai fait une seule séance.
Ah ouais ?
Et ouais, moi, j'ai été très réceptif.
Et t'y allais parce que tu sentais qu'il y avait ce blocage ?
Je sentais un blocage. J'avais l'impression de plus avancer, en fait.
Ok.
Et en fait, le diagnostic immédiat de cette personne, c'est que... je me rappelle, il m'a demandé de tendre les bras. Mm-hmm. Et il m'a tenu les mains. Et il m'a dit, vas-y, j'essaye de te retenir. Et toi, écarte les bras. Mm-hmm. Et en fait, j'ai pas réussi. J'avais pas du tout la force d'aller contre lui. Et du coup, bon, ben voilà, on a discuté, on allait chercher plein de choses dans l'enfance, etc. Je lui ai pas parlé de mon secret.
Bien sûr.
Mais lui, ce qu'il m'a dit, à la fin, il m'a dit, je me rappelle très bien, Damien, tu as créé toute une image autour de toi et tu as fait en sorte d'être parfait aux yeux de tes parents beaucoup, parce que je lui ai raconté mon enfance, etc. Mm-hmm. Et il m'a dit, tu as fait en sorte d'être l'enfant parfait à tous les niveaux. Et du coup, tu t'es enfermé dans quelque chose. Et là, il m'a dit, je sais pas ce que c'est que ce quelque chose, toi tu dois le savoir. Et là, j'ai commencé à me dire,
et là...
j'ai ma petite idée. Et il m'a dit, le jour où tu vas te libérer, ça va te faire tout drôle, mais tu vas briller, tu vas voir à quel point la vie est bien. Et ça va te, une fois libéré, tu vas être quelqu'un d'exceptionnel parce que tu vas être toi, quoi.
Ça va être le glow-up de toi-même.
Ouais, exactement, le glow-up, c'est le terme. Il l'a pas utilisé, mais c'était un petit peu ça. Et en fait, tu vois, c'est la première personne qui m'a dit, parce que moi, j'ai toujours essayé d'avoir cette image parfaite. Mais au final, étant l'enfant de la famille qui réussissait plutôt bien ses études, qui avait des amis, etc., tout se passe bien. Et du coup, on n'avait pas trop tendance à me féliciter, à me... Voilà, on était plus là où ça marchait pas que là où ça marchait.
Ça, c'est une erreur de parents.
Ouais, c'est clair. S'il y a des parents qui écoutent, ne faites pas ça.
N'oubliez pas de donner de la reconnaissance à tous vos enfants.
Clairement, parce que du coup, je pense que j'en manquais beaucoup. Et quand cet homme m'a dit ça, c'est une des premières personnes qui m'a dit « ça va être bien ce que tu vas faire ». Et...
quand tu apportes de la fierté justement à tes parents, c'est un peu ce que tous les enfants veulent entendre. Donc c'est vrai que si un homme étranger, mais qui a eu ce moment-là dans ta vie, comme une forme de figure parentale, paternelle, enfin après tu le mets où tu veux, mais qui t'a dit « t'inquiète pas, ça va aller même si tu es toi-même ». Bah,
ouais.
C'est ce dont tu avais besoin, quoi.
Ça a un petit peu déclenché
le processus.
Ça a duré encore un petit peu. Le processus s'est pas mis en route directement.
Il faut déjà l'ingérer, parce que c'était des années et des années de costumes.
Et ouais.
Tu vois, il fallait éplucher tout ça, quoi.
À relever. Ça fait rêver, en fait, quand le gars te dit t'as un truc à débloquer, quand tu vas le débloquer, ta vie, ça va être une folie. Ben, en fait, tu te dis, ok, j'ai envie de l'enlever, ce truc. Parce que... Et surtout, vu que j'étais venu là en me disant, j'arrive pas à avancer pour une raison que j'identifie pas.
Mytho.
Ouais. Du coup, voilà, je repars de chez ce monsieur, je fais mon petit bonhomme de chemin. Et dans l'été, je dragouille cette fameuse fille avec qui j'étais en licence et que j'avais commencé à mettre en target. Et là, ça y est, je conclue avec une fille. Et je me mets en couple avec elle.
On a dit déblocage, on n'a pas dit tout de suite.
Voilà. Déjà, il y avait le premier déblocage.
C'est ça, chaque chose en son temps.
S'autoriser à s'abandonner à quelqu'un, je pense, qui déjà. Était le premier step.
Donc, vous avez une relation sexuelle.
On a une relation sexuelle.
Et alors ?
Ça y est, j'ai 21 ans. C'est très étrange. Parce que du coup, je connais pas trop le corps de la femme. Parce que du coup, ça fait...
Le corps de la femme, le corps des femmes.
Des femmes. Et parce que ça fait des années qu'en fait, je n'en regarde plus en porno. J'en ai regardé plus jeune, mais ça fait des années que je n'en regarde plus du tout. Et donc, je découvre le corps de la femme. C'est bien. Enfin, je suis content que ça se soit passé avec elle parce qu'elle était très bienveillante. Mm-hmm. Et c'était quelqu'un de bien à qui je pense que j'ai fait beaucoup de mal. Donc, désolé, pareil, si elle nous écoute un jour. Ça se passe plutôt bien. De manière générale, après, j'arrive pas à bander. Mmh. Et ça me traumatise parce que là, je me dis, c'est le signe. C'est peut-être que juste elle m'attire pas et que du coup, ça ne vient pas. A posteriori, après, j'ai réussi. Donc, je pense que c'était surtout beaucoup
la
peur. Et je crois qu'elle avait un an de plus que moi. Et moi, j'avais cette image où je lui avais rien dit. Donc, forcément, je me disais, elle doit s'attendre à quelque chose de fou. Et moi, j'étais juste en train de me dire, c'est la première fois, comment je vais me débrouiller. Mais bon, ça s'est fait.
Et tu l'as désirée quand même ?
Ouais, ouais, ouais. Elle m'a vraiment tranquillisée en me disant, non mais...
T'inquiète.
Il n'y a pas de problème.
Attends, c'est cool que tu sois tombée sur elle.
Après, ça s'est très bien passé. On est restés ensemble, je pense, 3 mois, un truc comme ça. Ce qui, pour moi, à l'époque, était une éternité. Et on était officiellement en couple avec nos potes
et
à la
alors,
fac.
Et alors, comment ça s'est passé, ce début de vie sexuelle avec elle ?
Bien.
Ouais.
Sans être... En fait, à l'époque, je trouvais ça génial. Maintenant, avec tout ce que j'ai vécu derrière, je me dis, c'était complètement nul. Mais à l'époque, ça se passait bien. Ça me plaisait. Et j'avais des attentes. Enfin, je la désirais. Quand on se voyait, j'avais direct envie qu'on couche ensemble, etc. Y a la fameuse histoire de... Une fois, elle m'a fait une fellation pendant, je pense, 30 à 40 minutes. Et il ne s'est rien passé. Enfin, et même à la fin, j'ai pas joui, quoi.
T'as pas éjaculé ?
Non.
30-40 minutes ?
Ouais, et elle avait super mal. Enfin, à la fin, elle m'a mis un tir monumental en me disant « mais c'est pas possible » et tout.
Et tu l'expliques comment ?
Je pense qu'à ce moment-là, la relation avait déjà un petit peu commencé. Je pense qu'on commençait à être proche de la fin, sans que je le sache. Beaucoup d'exemples de ça dans le porno gay, où les mecs avaient l'air de prendre leur pied totalement. Et ça, c'est tout le problème du porno aussi. Bien c'est sûr. Que c'était bien évidemment exagéré. Et du coup, peut-être que moi, je me suis dit, c'est tout.
C'est juste ça, quoi.
Ouais. Maintenant que je sais ce que ça fait, je me dis, waouh, je l'aurais pas fait à sa place. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup ri de ça après, mais ce soir-là, elle m'avait dit, j'espère qu'un jour tu suceras une bite et que tu seras ce que ça fait parce que j'ai hyper mal et tout. J'ai déjà envisagé de la recontacter, de lui dire, écoute, maintenant je sais. Et effectivement, j'aurais pas tenu 40 minutes.
Bravo à toi.
Voilà, bravo. Je pense qu'à l'époque, j'étais très peu déconstruit. Et vraiment, j'ai eu des pensées envers elle. Je me dis, mais maintenant, je ne pourrais pas avoir ça. Mais je me rappelle que je me disais, elle est trop fille. Dans le sens, elle est trop sentiment. Elle me demandait toujours de lui faire des câlins, des bisous, etc. Mmh. Et au final, maintenant, c'est moi qui suis comme ça. Et du coup, je crois que c'est ça qui a précipité la fin.
Ouais, vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde, quoi.
Non. Et en fait, le temps passant, elle commençait à développer des sentiments. Mmh. Et moi, pas du tout. Je parlais beaucoup négativement d'elle à mes amis. Mmh. Et je pense que je la rejetais en fait sans en être vraiment conscient, je la poussais, enfin je faisais tout pour que ça se termine. Et du coup ça s'est terminé, c'est moi qui ai mis un terme à tout ça, à cette mascarade. Et là j'étais vraiment saoulé de cette relation, ça m'a, enfin sur la fin ça m'a épuisé.
Mais surtout que tu avais beaucoup d'attentes, j'imagine, enfin tu cochais ta case d'hétéro et finalement, pas
et
top.
Et ouais, exactement. Et j'avais idéalisé cette relation et je m'étais dit, ça y est, je vais paraître pour un hétéro, je vais être hétéro dans la société.
Ouais, je vais être reconnu socialement comme un mec qui se met des meufs.
Exactement. Et en fait, c'était pas du tout ça. Franchement, c'est surfait l'hétérosexualité. Je me suis dit, mais en fait, c'est tout. Et du coup, quelques semaines après, parce que j'ai re-regardé, j'ai essayé de retrouver l'historique et c'était vraiment quelques semaines après. Un après-midi, j'étais chez moi et je me dis vas-y, je vais coucher avec un mec.
Comme ça.
Et je me suis dit bah, en fait j'ai toujours pensé, j'ai jamais fait, là je suis chez moi, j'ai rien à faire et ça a vrillé en une après-midi. Et je crois qu'honnêtement, j'ai parlé au gars et le lendemain, c'était fait, quoi.
Mais, ah ouais, donc tu trouves ce mec comment ?
Sur Internet, à cette époque-là, je voulais absolument que ça reste discret. Bien donc sûr. Je disais pas mon vrai prénom, je m'étais créé une fausse adresse mail, etc. Mais je pense, tu vois, ce jour-là, j'ai beaucoup repensé au kinésiologue et je me suis dit, bon, bah, je crois que ça y est, c'est ça le drop que j'attendais. Et donc, je trouve ce mec, c'était un mec hétéro qui pour le coup, on continuait sur le sujet, avait juste envie de sucer d'autres mecs.
D'accord.
Et donc, pour moi, c'était parfait parce que je me suis dit, il n'en parlera pas.
Bah oui.
Il n'est pas gay, donc il va en parler à personne. Il était dans la
et
même.
Comme moi non plus, je ne suis pas gay, tout va
voilà,
bien.
Voilà, exactement. Et vraiment, j'y allais en me disant, non, mais c'est juste un trip sexuel et je ne suis pas gay, clairement. Et donc, voilà, j'ai vu ce mec deux fois.
Et donc, comment ça se passe ? Vous retrouvez chez toi ?
Ouais, on se retrouvait chez moi. Et en fait.
Tu ouvres la porte, il se passe quoi ? Comment ça se passe ?
Et là, c'était, bah, j'avais vraiment peur. Enfin, peur.
Oui,
j'avais pas envie que ça se sache, donc il arrivait, on était dans le noir, il est arrivé chez moi et
super
voilà.
Super malaise ou vous êtes
non
allé...
mais très direct quoi, je me suis assis sur le canapé, il a fait son affaire, ça a pas duré 45 minutes pour le coup, ça a duré 10 minutes je pense, et il est reparti comme il était venu,
ah ouais.
Et pas de prénom, enfin voilà, c'était vraiment totalement impersonnel.
Ah bah oui.
Et au final on s'est vu deux fois et c'est vraiment après où là j'ai fait une autre rencontre. Mmh. Qui s'est avéré être mon voisin, en fait. Je l'ai découvert après, mais on habitait dans la même résidence, ce qui était extrêmement pratique pour ma couverture.
Bien sûr. Mais pardonne-moi, mais quand tu te fais donc sucer par ce mec-là, quels sont tes sentiments à l'intérieur de toi ? Qu'est-ce que tu te dis ? Tu restes toujours dans ce déni de « c'est juste un trip, je me fais faire une fellation par un garçon et c'est rigolo » ou...
Ouais, je suis toujours là-dedans, mais par contre, je prends du plaisir énormément. Et beaucoup plus qu'avec cette fille avec qui j'étais
touches,
juste avant.
Tu...
Ouais, je le touche un petit peu, mais c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment... c'est lui qui fait l'action et moi, je prends le plaisir et j'ai aucune... Enfin, tu vois, au-delà, okay. Mais ouais, je participe pas vraiment au truc, quoi. Je me laisse faire, on va dire.
Ok.
Donc, c'est bien, mais c'est pas...
Oui, c'est pas...
Voilà, c'est pas un vrai rapport avec... Enfin, oui. Maintenant, je sais pas ce que j'appellerais, voilà. Oui. Même si, attention, disclaimer... La pénétration, c'est pas parce qu'on ne pénètre pas les gens que c'est pas un rapport sexuel.
Oui, bien sûr, mais là, c'est pas un échange réel. Quoi.
Voilà, c'est pas un échange, exactement.
Okay.
Et en plus, avec tout ce contexte de « il est hétéro, je suis hétéro, prétendument », du coup, c'était pas vraiment tourné vers l'échange et le laisser
oui,
aller.
Bien sûr.
Quelques jours après, hein, parce que là, j'étais parti, je commence à parler à un autre gars qui, du coup, s'avère être mon voisin, mm-hmm. qui, lui, pour le coup, est gay et plus âgé, et totalement outé et totalement OK avec ça. Et du coup, ben, un jour, on décide de se voir. Et là, il me donne son adresse. Et en fait, c'est la mienne.
Bah,
et on n'en avait pas parlé avant.
Trop marrant. Et là, vous rencontrez sur Internet aussi.
Ouais, sur pareil.
Donc, t'as quand même gardé ce truc où tu voulais essayer quand même d'autres choses. La fellation, t'avais pas... avec ce mec-là, t'avais pas...
Alors là, je m'étais dit, OK, maintenant, c'est moi qui vais essayer de faire une fellation à quelqu'un. Et par contre, là, je reste...
C'est vraiment pas à pas. Hein.
Ouais, exactement. Et là, je reste... Enfin, c'est toujours un secret.
Bien sûr.
Je lui donne pas mon vrai prénom. Pendant plusieurs semaines, parce que cette histoire, elle a duré un petit peu, et pendant plusieurs semaines, c'est un faux prénom que je lui donne. Et là, je me rends chez lui, qui est du coup à quelques mètres de chez moi.
Parfait.
Et là, j'arrive, et là, bah, il me voit, il me dit « Ah, mais t'es trop beau, j'ai trop envie de toi, etc. » Et bah, pareil, c'est un peu la première fois. Enfin, ma copine, elle avait envie de moi, mais
oui.
Là, j'ai senti... en tout cas, lui, il a eu visiblement un petit peu un effet « Waouh ». En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je me suis senti hyper désiré et mis en avant. J'avais ultra peur parce que pour le coup, je pense, ben là, c'était la journée et on avait beaucoup parlé, etc. Donc voilà, j'avais l'impression d'être plus à découvert, etc. Donc je me suis dit, potentiellement, lui, il peut me rendre visible si c'est une mauvaise personne. Pas du tout, finalement. et je le remercie pour ça parce que vraiment, ça, c'est lui qui a pris les devants. Donc j'ai pu essayer.
Donc t'es allé chez lui, vous avez commencé à...
On s'est pas embrassé car à l'époque, vu que j'étais toujours dans cette optique de me dire je ne suis pas gay, ben du coup je voulais pas... Je me disais qu'embrasser ça représentait un petit
D'accord.
peu le couple et du coup je freinais à fond, toujours step by step.
Comment ça se passe là quand tu commences... Là toi tu désires ce corps de garçon qui est en face de toi, qui s'offre à toi, qui te désire, comment ça se passe à l'intérieur de toi ?
Là c'est très fluide pour le coup et je me laisse aller complètement et c'est ça qui était assez dingue dans cette première... Enfin moi aujourd'hui je la considère comme ma première fois avec un mec parce que ça a été hyper fluide et j'ai eu, enfin tu vois, il a juste eu à me lancer et après j'étais partie et c'était vraiment du partage pour le coup.
Et alors ce corps masculin, cette première fellation, comment c'est, ça résonne en toi?
Ça m'a plu beaucoup. Il était assez, en tout cas il correspondait à ce qui m'attirait à l'époque, donc il était assez musclé, etc. Il représentait vraiment le corps masculin que j'avais beaucoup idéalisé et que je pensais vouloir rejoindre un jour. Et ça se passe bien et j'ai pas du tout de stress. Une fois que ça commence, je suis parti et j'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Et du coup, on commence par ça. Et puis moi, très vite, en fait, je lui dis j'ai envie de te ken, quoi. Et j'ai envie de tester la pénétration aussi. Et c'est bizarre parce que vraiment, j'étais pas du tout parti pour ça. Et en fait, ça s'est tellement bien passé.
Oui, et puis il a su, je pense aussi, te vachement te rassurer.
Ouais. Et du coup, en fait, c'est venu naturellement. Et tu vois, quand je suis ressorti après, je me suis dit ah, c'est ouf comment, comparé à ma première fois avec une fille, là, c'était hyper fluide pour moi. Et j'ai pas eu de problème. Et alors là, ça s'est déroulé comme sur des roulettes. Et au final, on va rester. Enfin, on va se voir pendant plus de 6 mois, je pense. Mm-hmm. Toujours sous cette couverture de je suis là pour tester ma sexualité. Je lui ai toujours dit dès que tu rencontres un mec avec qui tu peux être en couple, c'est OK de partir. Enfin, n'attends pas après moi, on n'aura jamais de relation. Et là, on a vraiment découvert. Enfin, moi, je me suis très vite laissé aller. Et c'est là que j'ai découvert toute ma sexualité.
Avec lui.
Et franchement, merci parce que c'était dès le début. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais la première fois où on s'est vu, il m'avait beaucoup rassuré en me disant tu peux commencer quelque chose. Si au milieu, ça ne va pas, tu fais demi-tour, on ne le fait pas, tu peux t'arrêter. Et ça, c'est pareil. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup refait après coup quand je pense que j'ai initié des garçons.
Et où
j'ai vraiment insisté sur ce point-là. Si ça fait 3 heures qu'on baise, mais qu'au bout de 3 heures, on est quand même à fond, mais t'as plus envie, enfin, peu importe. En fait, si la sortie, elle doit être offerte tout le temps, quoi.
C'est chouette de dire ça.
Et ouais.
C'est valable dans toutes les configurations.
Toutes les configurations et sexualité, et c'est tellement important, et c'est ce qui m'a permis de me laisser aller. Et c'est la première personne, je pense, avec qui je me suis vraiment laissé aller. Parce qu'il a su créer ce climat de confiance et où j'avais aucune peur, en fait, qu'il m'arrive quelque chose ou que je puisse que je sois forcée à quelque chose.
Et toi, ton côté, quand t'es avec lui, tu lui dis hein, que t'es en doute, que t'es hétéro-curieux et que t'es dans
le fameux.
T'es dans cette dynamique-là et il l'entend ou il te vanne un peu en mode ouais, mon gars.
Au début, il l'entend, plus on développe des relations.
Votre intimité.
Notre intimité, plus il me dit arrête, quand je te fais ça, tu kiffes bien.
Tu
donc,
vas pas me la faire.
Voilà. Et je suis plus âgé, donc des comme toi, j'en ai connu d'autres et tu vas pas rester hétéro-curieux bien longtemps. Et depuis, moi aussi, j'ai pu dire à des hétéro-curieux, mais non, t'es pas curieux en fait. Mais du coup, assez vite, il rentre là-dedans et du coup, moi, je me laisse aller totalement. Enfin voilà, là, on découvre plein de choses.
Donc vous restez dans une sexualité, entre guillemets, vanille.
Vanille, ouais. Ah, j'adore le dire, ça y est, le nombre de fois où je l'ai entendu.
Mais c'était bien, le step by step aussi.
Voilà.
T'allais pas commencer avec le fouet.
Non, voilà.
Accroché au mur.
Tu t'en doutes bien. C'était vanille, mais quand même, on commençait à s'essayer. Enfin, tu vois, moi, je commençais à découvrir un petit peu un côté dominant que j'aimais bien. Donc, c'était sur du très soft. On n'utilisait pas d'objets pour se dominer. Donc, hormis s'attacher un petit peu avec ce qui traînait, quoi. Donc,
la ceinture de peignoir.
Voilà. Donc, on n'était pas sur... du BDSM
hardcore,
plus. Mais on commençait un petit peu à explorer des choses et puis du coup on passait beaucoup de temps ensemble. Étant voisin, c'était hyper pratique.
Mais toi, tu t'étais un peu renseigné sur. Parce qu'il y a plein de clichés dans la sexualité homosexuelle. Tu sais, on dit oui, c'est qui. Alors il y a des trucs très cons et les clichés. C'est qui fait l'homme, qui fait la femme. Donc ça, on va le sortir tout de suite parce que ça n'a pas lieu d'être. Mais est-ce que tu t'étais posé la question? Est-ce que je suis actif? Est-ce que je suis passif? Est-ce que je suis versatile? Enfin, tu vois, est-ce que tu t'es renseigné? Parce que pareil, la pénétration anale, il faut la préparer. Est-ce que tout ça, t'avais un peu anticipé ou tu t'es laissé guider par ce mec?
Je me suis laissé guider. Étant l'hétéro-curieux, malheureusement, malheureusement, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, j'ai été plutôt dirigé vers le rôle de l'actif et qui me plaisait bien. Et je pense que quand tu découvres la sexualité gay, c'est le côté le plus facile parce que typiquement, tu n'as pas préparé une pénétration, par exemple. Mm-hmm. Et j'ai découvert après que ça pouvait être assez compliqué. Donc, je pense que c'est la position la plus facile. Donc, j'ai joué le rôle de l'actif pendant un bon bout de temps. Et puis, toujours pareil, il a su créer les conditions où on se laissait aller. Et en fait, un jour, je me suis juste dit, j'ai envie d'essayer.
Bien sûr.
Voilà, j'essaye, quoi.
Donc, vous avez cette relation pendant 6 mois où tu apprends... plein de choses avec ton voisin, et donc du coup assez pratique pour la fluidité des rencontres et des moments. Qu'est-ce qui se passe au bout de 6 mois ?
Il se passe des choses avant, parce que du coup, entre-temps, je fais mon coming out.
Ah.
Je fais mon coming out à une de mes deux meilleures amies. Mmh. Une des deux n'était pas là, elle était partie faire un Erasmus, donc il n'y en avait qu'une qui était près de moi. Et donc, un soir, on se fait un restaurant tous les deux. Et là, je lui balance tout depuis le début. Donc, je suis vierge depuis très longtemps, alors que tu crois que c'est l'inverse. Et là, ça fait quelques semaines. Je crois que c'est venu assez vite, ou c'était un mois après peut-être, où je lui ai dit, bon, ben là, je vois ce mec, c'est juste pour tester. Voilà, mais en tout cas, enfin là, je lui dis vraiment la vérité. Et pour le coup, je lui... Bah, à ce moment-là, ma vérité, c'est que c'est pour tester. Et là, pour le coup, je suis vraiment dans une... Je ne m'interdis pas que ce soit plus, mais je suis... là, oui, je suis... j'ai libéré le...
Dans la réalité du moment, quoi.
Voilà. Là, je suis plus en phase avec ce que je suis. Et donc, je lui en parle. C'est hyper bien accueilli. C'est accueilli même... j'ai gardé, bien sûr, précieusement tous les messages que j'ai reçus après cette soirée où elle m'a dit, bah, en fait, j'ai beaucoup d'envie. Enfin, je suis hyper fier de toi. De... Aujourd'hui, quand on en parle, elle me dit, j'avais capté qu'il y avait quelque chose. Mais bah, c'est quelqu'un de très bienveillant, c'est pas pour rien que c'est ma meilleure pote, du coup elle, jamais elle aurait fait ce pas vers moi et de me forcer à m'outer ou quoi que ce soit. Mais du coup voilà, hyper bien accueilli.
Elle a été surprise ?
Un petit peu, surprise en fait que je me sois à ce point sorti de ma zone de confort, parce que je paraissais comme quelqu'un de très rangé et bah, très, toute cette image que j'avais voulu construire. Et donc, elle était assez surprise que j'ai sauté ce pas en si peu de temps, parce que ça s'est fait dans une journée et c'est ce que je lui ai dit.
C'est vrai,
quoi.
Que c'est assez impressionnant, ouais.
Bah ouais, tant d'années de cachette pour une après-midi.
À traîner sur Internet, à traîner. Bravo.
Voilà, c'est allé vite. Et du coup, très surprise, très envieuse, enfin, très de me dire, bah, c'est super que t'aies osé faire ça, j'aimerais avoir ce courage sur plein d'autres sujets. Et du coup, bah, ça commence à créer un contexte où je commence à assumer auprès de certaines personnes. Du coup, j'en parle à ma deuxième meilleure pote quand j'ai la chance de la rejoindre dans son Erasmus. Et petit à petit, je commence à le dire à certains de mes potes. Et je le dis aussi à ma mère à ce moment-là. Donc avant la fin des 6 mois, je sais plus si c'était 6 mois, mais en tout cas avant la fin de cette première relation, j'en parle à ma mère un peu difficilement parce que, en fait, je m'étais dit, si je lui en parle, c'est que je serai en couple. Et là, ce qui était bizarre, c'est que je venais lui parler de ma sexualité et je lui avais jamais parlé de ma sexualité, comme on en parlait tout à l'heure. Mmh. Et là, j'arrive et je lui dis, je couche avec un homme, quoi. Donc, je parle de sexualité sur un sujet en plus qui, dans ce contexte-là,
est
original et surprenant.
Inattendu.
Et inattendu. Ça se passe très bien la première fois que je lui en parle. Moi, je me mets un petit peu une pression. Les 10 minutes avant de le sortir, j'en peux plus. Mais quand je lui dis, ça se passe assez bien, je lui raconte cette histoire et voilà, je lui dis, bon, ben, je sais pas si c'est pour toujours, peut-être que je suis bisexuel, peut-être que je serais gay. Je crois qu'à l'époque, je n'osais pas encore aller sur ce terrain-là. J'étais plutôt en mode, je suis bi. Du coup, je lui raconte et je lui dis, bon, ben voilà, on verra comment ça se passe. J'en parle pas autour. Je lui dis, tu peux en parler si tu veux, mais pour l'instant, c'est de la sexualité, c'est pas des relations. C'est assez bien accueilli. On en reparle 2-3 mois après et là, c'est plus le psychodrame. En larmes et à me dire, bah, t'es l'enfant que j'avais imaginé avec une famille, un chien. Et c'est, je pense que c'est aussi ce que moi j'avais construit, hein, clairement.
Projeté aussi près d'eux.
Et projeté près d'eux et pour moi-même. Mm-hmm. Et donc voilà, là ça a été un petit peu compliqué. C'est un peu plus là où je lui en ai voulu parce que je lui ai dit, bah, en fait, c'est moi qui ai fait le plus dur là. Moi j'ai réussi à dealer avec, donc en fait il va falloir y arriver aussi parce que bah, c'est moi qui vais être confronté au rejet de certaines personnes. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a que ma mère qui le sait. Et le vrai coming out viendra dans ma première relation, qui arrive, je pense, un an après. Donc, entre-temps, il va se passer d'autres choses. Je vais beaucoup explorer après ce gars-là. Du coup, bah, au bout de 6 mois, il trouve un mec, donc il se met avec, comme c'était le deal de base.
Bien sûr.
Et donc là, moi, je vais beaucoup explorer, je vais découvrir Grindr.
Bam.
Et là...
Ça chauffe le téléphone.
Et là, j'ouvre la boîte de Pandore et je découvre tout, en fait. Et je découvre que ça peut être cool d'être gay, que je peux faire plein de choses différentes. Et
que tu peux rencontrer des super mecs.
Ouais, que je peux plaire à des mecs hyper beaux. Enfin, que moi, toute ma vie, j'ai idéalisé. Et là, je peux me retrouver à coucher avec. Alors que pendant toutes ces années, je me suis dit que ça n'arriverait jamais.
Tu les rencontres que sur les applis ? Tu sors pas ?
Que sur des applis, je sors. Mais si des mecs me draguent en soirée, je...
T'arrives pas ?
Ouais. Bah parce que ça m'outerait à cette époque-là, même si mes potes commencent à le savoir.
Oui, t'as pas envie que ce soit visible.
Ouais, et on revient sur le sujet de mon métier où bah, on en parlait tout à l'heure, dans la com, il y a beaucoup le cliché du mec qui fait de la com et qui est gay. Et j'avais une vie très... J'allais à beaucoup d'événements, j'étais assez présent sur les réseaux sociaux, etc. Et j'avais pas envie d'être...
Le cliché.
Le cliché. J'étais le petit jeune qui arrivait pas mal à faire sa place dans la ville où j'étais, dans mon métier. Et j'avais pas envie de rajouter cette brique à dire que les gens disent « Damien, c'est le mec gay qui fait ça ». Tu vois. Ouais, je voulais pas être défini par ma sexualité. Je veux toujours pas aujourd'hui, à cette époque-là, c'est vraiment, c'était vraiment de la consommation.
T'as couché avec combien de garçons ?
J'ai réfléchi à cette question.
J'ai sorti mon tableur Excel.
Je me doutais que tu la poserais. Une fois, j'ai essayé de compter. Je me suis arrêté à une centaine. Et en fait, je ne sais pas le compter parce que vraiment, je ne connaissais pas les prénoms, je ne connaissais pas les vies. Ah, c'était vraiment du... C'était du one shot,
C'est-à-dire, c'est un peu comme l'hétéro curieux qui voulait fellationner. C'était genre, vous matchez, vous retrouvez chez toi ou chez eux ou ailleurs. Et genre, juste bim-bam.
Du sexe, ouais. Et c'était vraiment... Okay. Et c'était du soir, enfin le soir même, quoi. Des fois, je sortais de la fac, j'allais sur Grindr et une heure après, j'étais chez un gars, quoi.
Et qu'est-ce qui te faisait matcher avec un mec ?
C'était physique, franchement... uniquement, il n'y avait aucun critère d'esprit, quoi. Enfin, on discutait vraiment, Grindr a ça de particulier, mais vraiment, c'était « Salut, ça va ? Ouais, tu cherches quoi ? T'es actif, passif ? Qu'est-ce que t'aimes faire ? Ok, et si c'était bon, bah, c'était en mode « J'habite là, viens, quoi. »
On n'échange pas un petit café ?
Non. Ah non, c'était...
les signes astro.
On arrive, bah non, alors que maintenant, c'est la base, quoi. L'ascendant.
Ok, donc t'es protégé à chaque fois ?
Pas toujours. Je regrette beaucoup aujourd'hui. Parce que bah, j'étais pas éduqué en fait sur ce sujet-là, personne m'en avait parlé et enfin personne m'en avait parlé. À cet âge-là, oui, t'en entends parler, mais je percevais pas le risque. Enfin, c'est ouf hein, parce que maintenant je me dis mais quelle erreur. Mm-hmm. J'ai eu de la chance. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la chance, voilà, il m'est rien arrivé de grave en tout cas.
C'est cette génération vraiment où on vous a un peu oublié, j'ai l'impression, à l'école. Moi, je suis d'une génération où tu vois quand j'étais au collège. Et au lycée, il y avait énormément de campagnes. Les infirmières faisaient des campagnes dans les classes. Tu avais le 1er décembre, la journée mondiale de mobilisation contre le sida. Tu vois, c'était un jour important. Il y avait des distributions de capotes. Enfin, tu vois, c'était super important. À la télé aussi, il y avait beaucoup de campagnes. Et j'ai l'impression que ta génération, il y a eu un espèce de flottement, tu vois.
Clairement.
Et c'est vrai que...
J'ai la même analyse, ouais.
Des quelques jeunes hommes comme ça, autour de 25 ans, que j'ai pu interviewer et vraiment, tous ont fait remonter ça. Et j'ai l'impression que la génération encore d'après, donc qui a 20 ans aujourd'hui, que j'ai pu interviewer, ça revient. On revient sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que la tienne, je ne sais pas ce qui s'est passé.
J'ai l'impression que c'est le moment. Enfin, moi, vraiment, ça, pour le coup, je me souviens que je me disais, si tu attrapes le VIH, ce ne sera pas grave. Et je pense qu'il y a eu peut-être ce moment-là, on a commencé à progresser sur cette maladie.
Oui, on progresse, bien sûr.
Et on continue à progresser.
Bien sûr, la trithérapie aujourd'hui est beaucoup plus légère. Les charges virales peuvent être à zéro. La séropositivité, tu vois, les gens vivent avec. Et de plus en plus, les gens sont, entre guillemets, en confiance de le dire. Il y a la PrEP aussi, tu vois. Mais ça reste quand même une maladie qui n'est pas encore complètement soignable et donc qui reste dangereuse.
Et il n'y a pas que ça en plus. Parce qu'il y a le VIH, mais il y a toutes les MST.
C'est ce que j'allais te dire, il y a toutes les IST, toutes les MST, il y a des choses qui peuvent être en fonction de l'état de santé de chacun qui peuvent être super graves. Quoi. Donc,
c'est clair.
Et ça, c'est vrai que pareil, le préservatif, ça ne, entre guillemets, n'empêche pas que le VIH, c'est aussi toutes les MST et IST.
Ouais. En tout cas, dans tous les mecs que j'ai croisés, je sais pas, j'allais dire dans la communauté gay, mais je ne représente pas la communauté gay dans son ensemble, il y a un peu cette image, enfin, il y a vraiment des images, des rumeurs qui circulaient. Enfin, moi, par exemple, jusqu'à longtemps, j'avais dans la tête que si tu faisais une fellation mais que tu n'éjaculais pas à l'intérieur, il y avait beaucoup moins de risques.
Faux.
Faux, totalement, ne faites pas ça.
Donc, une centaine de partenaires.
Ouais.
Qu'est-ce que tu essaies de le plus extrême ou des rencontres les plus folles ? T'as des souvenirs ?
Je dirais pas que c'est extrême, mais j'ai essayé un plan à trois. C'est hyper cool, hyper court pour ma part, parce que j'étais tellement excité que en fait, ça s'est terminé hyper vite pour moi. En plus, les deux mecs se connaissaient, donc il y avait quand même un peu ce côté où j'étais un peu la pièce rapportée et du coup, j'avais pas cette complicité qu'ils avaient, etc. Mais c'était assez sympa. Mm-hmm. C'était une expérience enrichissante, je dirais.
T'as jamais eu peur ?
Non, jamais. Et au début, je crois, les premières fois où je faisais venir des mecs chez moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe si, je sais pas, si ils m'étranglent, si...
Mais enfin, tu fais quasiment 2 mètres.
Ouais, c'est vrai.
Faut pouvoir.
Mais ça, c'est un des trucs fous. Enfin, fou, en tout cas, c'était fou pour moi. J'ai eu une aventure avec un gars qui était rugbyman et qui, pas à niveau professionnel, mais pas loin, et qui du coup était plus grand que moi, qui faisait 2 fois ma largeur.
Waouh.
et qui, lui, pour le coup, j'avoue, il est rentré chez moi, le parquet a craqué sous ses pieds, et là, je me suis dit, là, je peux rien faire. Si ça se passe mal, là, c'est sûr, j'y reste. Et au final, bah, il était dans le rôle du passif, et ça, c'était assez fou, comme on s'est vu plusieurs fois, et c'était vraiment, j'ai été très dominant avec lui. Et...
Alors que c'était une
brute, ouais, voilà. Quoi. Et je pense que c'est ça qui m'excitait clairement, c'était de me dire... c'est l'opposé de moi et pourtant c'est moi qui décide et il fait craquer mon parquet, mais pourtant c'est
moi qui le fais craquer.
Voilà, exactement.
Je comprends. Ok, donc tu vois, c'est tous ces partenaires.
Ouais.
Ça a duré combien de temps à peu près?
Je pense un an à peu près, jusqu'à ce que je commence à me dire...
Bon.
En fait, je pourrais peut-être être en couple avec un mec carrément. Et puis tu vois, bah, là j'étais encore jeune, enfin, j'avais 23-24 à peu près, donc je n'étais pas du tout dans une optique de mettre en couple et je venais de découvrir ça. Donc,
ouais, bien sûr.
Et du coup moi c'est vraiment à ce moment-là où bah, j'avais qu'une envie, c'était de coucher avec la terre entière et de découvrir tout ce que je m'étais privé de connaître jusqu'alors. Et du coup, ouais, passé cette période, je commence à me dire bon, je vais peut-être essayer d'avoir quelque chose de plus solide. Je vais rencontrer un garçon qui avait été un plan cul à l'époque et qui avait fait partie de toute cette vague de la centaine qui sont passées sans discontinuer. Et on s'est recontactés et au final, on a commencé une histoire qui était très vanille, beaucoup retombée dans ma première histoire avec une fille qui m'avait un petit peu traumatisée sur la proximité, le besoin d'attention en permanence, etc. Et donc, j'avais beaucoup de mal à avoir quelqu'un qui s'introduisait dans ma vie, etc. Et donc, on a eu une histoire de 5-6 mois, je crois, qui était cool. Je ne suis pas tombé amoureux, mais je me suis laissé aller. On est parti en vacances ensemble. Donc, c'est la première fois où j'ai assumé dans une vie publique.
D'être avec un homme.
Ouais, voilà, dans une vie publique par rapport au propriétaire de Airbnb ou ce genre de choses, tu vois, où j'arrivais et j'étais en mode oui.
Oui,
bon,
mais c'est... aller au resto, voilà. Aller à la plage, enfin,
ouais,
voilà,
exactement.
Officialiser le fait que tu étais avec un homme.
Tout à fait, ouais. Et du coup, c'est de là où je l'ai officialisé au reste de ma famille.
Ouais.
Parce qu'il y avait un contexte où ma sœur allait se marier. Et en fait, je me suis pas senti d'être faux dans ce moment-là par rapport à eux. J'avais envie que ce soit pure émotion, tu vois. Enfin, je savais que ça allait être un moment fort pour moi parce que je suis assez sensible. Et j'avais envie de le vivre
pleinement.
Et pour moi, ça en faisait partie. Quelques mois avant le mariage de ma sœur, repas de famille avec mon père, mes frères et sœurs et les pièces rapportées. Et là, tout le repas, je me dis, bon, allez, ce soir, je lâche. Et donc, au dessert, le classique.
Alors,
j'ai un petit truc à vous dire.
T'as quelque chose à vous dire? T'avais dit à ta mère que t'allais l'annoncer?
Non, mais je lui avais dit que j'allais... Elle m'avait dit, je veux pas que tu le fasses avant le mariage parce que je veux pas que des gens te regardent mal. Et que elle m'a dit, moi, si des gens te regardent mal, je vais intervenir parce que je pourrais pas accepter qu'on te considère comme différent. Donc, elle avait peur de pas pouvoir gérer ce que
je comprends.
Je lui en ai pas voulu. J'en ai plus voulu de sa réaction quand je l'ai annoncé que de ça, parce que je comprends le. Voilà. Enfin, moi, à sa place, je me protège dans le fait d'avoir. Je me projette dans le fait d'avoir des enfants. Et c'est sûr que moi, je pourrais pas accepter qu'on regarde mon enfant et qu'on le considère différemment de mes autres enfants qui sont dans ce jour spécial, tu vois.
Et à l'inverse, je te dirais, mais moi, je veux que mon enfant soit bien avec lui-même et aligné, et finalement, on s'en fiche de ce que pensent les gens.
Et ouais. Donc et c'était un peu le discours que je lui tenais. Je disais, mais leur saute pas à la gorge, moi, je m'en fiche de savoir.
Oui, c'était avant le dessert.
Voilà, avant le dessert. Et là, je dis, j'ai un truc à vous dire. Ma mère change de tête direct parce que je pense qu'elle comprend ce qui va se passer. Mon frère me dit, tu vas te marier. Donc là, heureusement, ça m'a fait rire. J'ai dit, alors, peut-être, mais pas tout de suite. Et là, j'enchaîne et je dis, bah, peut-être pas tout de suite et peut-être pas avec une femme, parce que là, bah, du coup, je suis en couple avec un mec. Je parle du mec, je dis comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, je le présente, quoi.
Donc, tu présentes une histoire d'amour, pas une sexualité.
Ouais, exactement. Et c'était, je pense, la condition pour que j'arrive à le sortir à autant de personnes. Ma mère se met à pleurer, ma sœur se met à pleurer directement. Donc moi, je me mets à pleurer parce que je suis sensible et que du coup, je vois ma mère et ma sœur pleurer, bah, je pars avec. Et en fait, je pense qu'elles ont pleuré parce que bah, c'était hyper inattendu pour elles, enfin pour ma sœur du moins. Et je pense que c'était fort parce qu'on n'est pas dans une famille où on se confie beaucoup sur nos sentiments. On se dit je t'aime, mais en fait, on ne se confie pas beaucoup dans la profondeur. Et je pense que ça a été fort pour tout le monde qu'après des années de silence, j'arrive et je dis je suis en couple avec un mec, je suis potentiellement gay. Et
j'adore sucer.
Voilà, ça je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Un peu un choc pour tout le monde, pour moi aussi de l'avoir sorti en fait, parce que ça pour le coup je l'avais un peu appréhendé, j'y réfléchis des semaines avant.
Et ton père et ton frère réagissent comment?
Mon frère il réagit pas, mais il réagit jamais beaucoup. Et mon frère avait beaucoup changé quand on était plus jeune, il était très raciste homophobe, il avait une bande d'amis qui vraiment l'a tiré vers le bas pendant des années. Et là, il était en couple avec une fille très bien, avec qui il est encore aujourd'hui, qui l'a beaucoup fait changer, pas inquiet. C'était plus mon père, mais vraiment, quand je l'aurais présenté, et ça, c'est quelque chose que je retiens de mon coming out, et que je, si je peux donner un conseil, c'est que vraiment, je suis arrivé sûr de moi, et je me suis dit, c'est pas une... Et c'est comme ça que je leur ai dit, c'est pas une option, et ça va pas devenir un secret. À partir de maintenant, c'est acté, et en fait, vous allez devoir dealer avec, ou alors vous me verrez plus. Et c'est même, enfin, avant même qu'il s'exprime, c'est moi qui ai dit, voilà, maintenant vous le savez, et c'est à prendre ou à laisser.
Ouais, c'est pas une condition.
Voilà, c'est pas une condition, et c'est pas, je veux pas que ça devienne le secret de la famille qu'on se refile à la fin des repas de famille, quoi. J'ai été hyper affirmé dans ma posture, bien que totalement en sanglots, et voilà, et je leur ai dit, en fait, ça fait des années que je ramène personne, et moi, je, ben, ce mec-là, j'ai envie qu'il soit au repas de famille, j'ai envie qu'il soit là à Noël, enfin, j'ai envie d'avoir droit, moi aussi, à tout ce que j'ai pas eu jusqu'à présent et que j'ai vu autour de moi. Père, réaction, il m'a dit, bon, de toute façon, on te connaît, de toute façon, on n'aura pas le choix, c'est ce que tu es en train de dire, et voilà, on va devoir faire avec, mais en mode, on va devoir faire avec, et ça nous fait, ça nous fait pas, quoi. Ça nous fait chier, ouais. Donc voilà, ça se finit comme ça, un peu dans les pleurs, on se prend un bon Dijon, je me prends un verre, un shot d'Armagnac, un vieux truc hyper fort, je l'ai bu d'une traite. Et c'est la première fois où ça fait comme dans les films, tu te dis, ah, genre, ça m'a fait du bien de prendre un bon shot d'alcool, là. Et j'avais bien fait mon coup, je rentrais dans ma ville étudiante ce soir-là. Donc en fait, j'ai lâché mon truc et une demi-heure après, j'étais partie.
Tu l'as laissé avec, quoi.
Voilà, j'ai fait mes affaires, je suis monté dans la voiture et je suis parti. Donc c'était confortable de pouvoir partir comme ça. Bon, le revoir a été un petit peu horrible. On s'est dit au revoir comme d'habitude, mais c'était vraiment... Enfin, mon père, c'était en mode on se fait la bise, mais on se parle pas et on est parti pas en très bon terme, quoi. Le soir, j'ai reçu plein de messages de ma mère, ma sœur, le futur mari de ma sœur qui est aujourd'hui son mari. Ça m'a fait du bien parce que moi, je suis rentré, j'ai pleuré toute la nuit. Je pense que ce n'était pas de la tristesse, c'était
oui, c'était l'émotion.
Du lâcher prise. Mmh. C'est tout ce que j'avais retenu pendant toutes ces années, je pense, qui est sorti. Et au final, après, il y a eu une période de plusieurs mois où plus trop revenu chez mes parents. Mais je parlais avec ma mère, elle me disait « bon, ben, ton père, il faut lui laisser le temps de faire son chemin ».
Il faut laisser le temps, je pense, aux parents aussi. On ne peut pas leur demander du jour au lendemain.
Je pense, ouais. J'étais très déçu à ce moment-là. Je pensais qu'ils allaient l'accepter tout de suite parce que moi, je me suis dit, s'ils m'aiment, ils vont voir que je suis aligné avec moi-même, ça va leur donner envie.
Oui, après, ça ne remet pas en cause l'amour. Mais c'est vrai que pour tes enfants, il y a aussi ce truc, je pense, de la crainte aussi du « qu'en dira-t-on ?». Il y a la peur de que son enfant soit... marginalisé, on parle de l'homophobie. Comme tu sais, tes parents, ils ont une vision aussi de l'homosexualité qui est assez étroite. Donc du coup, il y a toute cette crainte-là. Enfin, tu vois, je pense que c'est une preuve d'amour aussi que d'avoir peur pour toi.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs comme ça. Enfin, ma mère m'en a beaucoup reparlé après. Elle me disait, en fait, moi, j'avais peur et j'ai été triste que tu doives vivre tout ce que même eux-mêmes ont imposé en fait, à des personnes homosexuelles en ne les acceptant pas ou en ayant peur de ces personnes-là. Et à la fois, ils voyaient que j'étais... Et moi, je leur démontrais que j'étais heureux et j'étais bien avec ce garçon. Et du coup, très vite, j'ai instauré le truc en mode, on est parti en vacances ensemble très peu de temps après. Et moi, j'arrivais et même mon père, si on en reparlait pas au début, j'étais en mode, là, on part... Dans 10 jours, on part à tel endroit, on va faire ça. Enfin, voilà, j'ai vraiment... Oui, du moment où je l'ai dit, je suis parti du principe que c'était OK et qu'à partir de maintenant, j'en parlais de manière normale. Et je pense que ça aussi, ça a fait le succès quelque part de ce coming out, en tout cas la facilité pour moi. J'ai su leur montrer que j'étais heureux et je l'ai fait dans un moment où moi, j'étais OK, j'avais passé toutes les étapes, etc. Du coup, j'inspirais du bonheur, je pense. Enfin, en tout cas, j'en dégageais. Et je pense, du coup, c'est plus facile de se dire, il est heureux, donc... on a envie de le suivre quelque part.
Oui,
et
puis je pense te voir aussi dans une relation simple. Ouais. Tu vois, du jour au lendemain, t'as pas changé, t'es pas... Enfin, tu vois, on va faire des clichés à la con, mais tu t'es pas transformé en cliché sur pattes, tu vois. T'es resté le même jeune homme, sauf que voilà, t'as assumé ton identité totale, quoi.
Exactement. Et j'y pense souvent, je me dis, ça doit être tellement difficile quand qu'on décide carrément de changer de sexe.
C'est pour ça que c'est aussi difficile, parce que même si on parle pas d'orientation, mais là, effectivement, il faut reconstruire toute son image sociale, parce que finalement, ta sexualité, elle ne te regarde que toi. Et donc, tes parents, ils n'ont pas vraiment à... Enfin, tu vois, on te voit, on se pose aucune question sur ta sexualité, et que tu sois accompagné d'un homme ou d'une femme, tu fais comme tu veux, mais... La transidentité, c'est tellement différent. On reconstruit une image sociale et les parents d'enfants qui sont dans un parcours de transition le disent, il faut faire le deuil de son enfant pour accueillir un autre. Et ça, c'est autre chose.
Je pense, ouais.
Tu vois, je pense que c'est incomparable avec une orientation.
Et ça doit être difficile des deux côtés. Et moi, je me mets à la place des gens qui doivent annoncer ce changement. Oh, et ça doit être...
tellement dur.
J'y ai souvent pensé. Enfin, moi, je m'estime heureux, enfin, chanceux de la façon dont ça s'est déroulé.
Oui, tu restes 6 bien dans, dans ton slip, quoi.
Voilà. Franchement, je m'estime chanceux dans cette communauté-là.
Et il faut être, quand on est parent, il faut aussi reconnaître la chance qu'on a quand nos enfants sont bien dans leur genre.
Ouais.
Parce que c'est aussi... Une...
Carrément. Et parce que c'est aussi difficile pour la personne de changer de genre. Enfin, c'est pas neutre de naître dans le mauvais, genre, quoi.
Ah ouais, c'est très dur. Ok, donc tu as... ça y est, t'es outé.
Ouais.
T'as cette relation avec ce garçon qui va durer...
Qui va durer 6-7 mois.
Ok.
Et qui se termine pour les mêmes raisons que ma première relation avec une femme.
Donc il était trop
présent.
Trop présent.
Ouais, trop en demande. Et moi... quand même, malgré toutes ces étapes, pas encore prêt
à m'investir
dans un couple.
Bah, peut-être parce que c'était pas la bonne personne.
Je pense. Maintenant, oui, clairement. Donc voilà, ça se termine. Je retombe un petit peu dans ma période découverte du monde merveilleux de Grindr. Mais quand même, en essayant, là, pour le coup, on boit des cafés et on...
et on partage un prénom.
On parle pas astrologie, mais on partage les prénoms et on parle un peu à... On parle un peu. Et du coup, je retombe dans cette période, mais avec quand même aussi, il y a un peu des rechutes avec le tout premier, celui avec qui j'ai passé 6 mois au début. Mm-hmm. Et où, en fait, finalement, maintenant que je me suis autorisé à être en couple avec un garçon, je me dis, mais en fait, j'aurais bien aimé être en couple avec lui. Parce que ça se passe extrêmement bien. Et...
même ton voisin.
Ouais. Et du coup, je fais quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien a posteriori. Et je pense que c'est important de le faire aussi. Je l'invite au resto et je lui dis que j'ai été amoureux de lui. Je le reconnais, en fait, je lui dis, mais j'ai eu besoin, en fait, de reconnaître que j'avais été amoureux avant et que du coup, j'avais été, enfin, en fait, que j'avais été homosexuel dès cette période-là. Et je pense que j'ai eu besoin
Et pas seulement en quête d'une...
d'un amusement ou d'une découverte, je sais pas comment on peut le décrire, mais ouais, je me rends compte que, en fait, je me suis privé de certaines choses et j'ai besoin de rétablir la vérité, je pense aussi pour moi-même.
Bien sûr.
De me dire pendant tout ce temps, en fait, j'avais déjà arrêté de me mentir.
Verbaliser
et
ça, ouais.
Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de le verbaliser et de le dire à la personne. Et ça, c'est aussi à noter. Dites aux gens que vous les aimez, c'est tellement important et ça fait tellement de bien.
Donc, il accueille ça, j'imagine, avec beaucoup de plaisir.
Ouais, bon, entre-temps, lui, il est en couple et il est bien dans son couple, donc ça lui fait plaisir et on en rigole et il me dit qu'il l'a toujours su et que...
comme t'étais gay, il le savait depuis le départ.
C'est ça, l'hétéro-curieux, il n'y a jamais cru et le juste plan cul, il n'y a jamais cru non plus. Mais du coup, voilà, ça fait plaisir et je pense que c'est vraiment une des dernières étapes. J'en ai encore plein d'autres à passer, je pense, mais une étape assez forte où je vais me laisser aller à dire à quelqu'un que je l'aime, à un homme que je l'aime, c'est le premier homme à qui je dis que je l'ai aimé. Mmh. Je le dis au passé, c'est déjà un petit peu plus facile, mais en tout cas, je le dis. Bah là, je rentre dans ma dernière relation en date, et en fait, là, c'est vraiment là où je vais encore passer un step supérieur, où du coup, je rentre dans une nouvelle boîte, je rentre dans le travail que j'ai actuellement. Mmh. Et je me mets en couple avec ce garçon. Et en fait, c'est vraiment... Là, c'est l'apogée de tout ce que j'ai attendu. C'est-à-dire que j'ai un travail qui me plaît. Socialement, je m'affirme en tant qu'homosexuel. Dans mon travail, j'arrive, je suis homosexuel. Toutes les personnes qui, quand t'arrives, au bout de 3 jours, te disent « Alors, t'as une copine ?» Je leur dis « Non, j'ai un copain. Il s'appelle comme ça. » Et voilà, j'en parle très librement. Donc, c'est la première fois où vraiment je vais assumer ça. Et ça fait du bien, en fait, d'être pleinement soi-même. Mmh. Et donc là, c'est une super année qui se passe. Parce que aussi, c'est le moment où du coup, il rencontre mes parents. Donc, c'est la première fois que je présente quelqu'un tout court à mes parents.
Ça se passe bien ?
Ça se passe assez bien. Ils sont très peureux. Mais je pense que ça aurait été une fille, ça aurait été exactement pareil.
Okay.
Ils sont très timides, en fait, même dans leur vie en général. Lui était totalement outé depuis très longtemps. Enfin, il a toujours... aussi loin qu'il ait eu des relations, c'était avec des garçons, etc. Donc, c'était plus facile aussi. Enfin, j'ai pu m'appuyer sur son expérience à lui. Du coup, je présente à mes parents. Enfin, voilà, on se voit plusieurs fois avec mes parents. On fait le marché de Noël avec mes parents. Enfin, vraiment, les clichés le double date avec mes parents à manger des churros pour Noël. Ça se passe très bien. Niveau sexualité, c'est cool aussi de... je découvre le fait d'avoir un partenaire régulier dont je suis amoureux, parce que je tombe amoureux. Et c'est très différent. Et c'est cool. C'est hyper cool. On est resté là aussi. Enfin, je suis retombé sur une sexualité plus vanille parce que lui, il était un petit peu plus. Mais tu vois, pour le coup, on était tous les deux... Enfin, j'étais toujours un petit peu l'actif, mais on était quand même tous les deux assez versatiles et assez open sur ce qu'on avait envie de faire.
C'est une belle relation.
C'est une belle relation. Maintenant, je l'aime un peu moins vu qu'elle est terminée. Et c'est une relation qui m'a beaucoup blessée parce que moi, de mon côté, c'est la première fois que j'ai laissé rentrer un homme dans ma vie, dans ma famille. Et j'avais beaucoup d'attentes de rentrer dans la sienne et qu'on crée quelque chose. Et je me suis dit, bon, c'est celle-là et c'est ça l'amour que j'ai attendu. Et il y a eu de l'amour et c'était cool. Mais lui, m'a toujours... en fait, il ne venait pas de la ville où on habitait. Il a toujours gardé son cercle d'amis et sa famille à distance un petit peu. C'était une belle relation, mais où j'ai été frustré, sentimentalement parlant. Je me suis retrouvé dans la position, de tous ces gens que j'avais rejetés et où en fait, j'ai été beaucoup en demande et j'ai été souvent triste de ne pas recevoir ce que moi j'ai donné. Bah, je ne donnais pas avec condition, hein, mais des fois, ça fait juste du bien de se sentir...
Mais parfois, il faut savoir donner et rien attendre en retour.
Voilà, c'est un peu ce que j'ai appris avec cette relation.
Mais tu as appris, c'est déjà super.
Ouais, c'est clair. Et ça m'a beaucoup coûté parce que ça s'est terminé pendant le confinement. Donc ça y est, on y arrive.
Ouais.
Après une période, avant le confinement, on est quand même dans On the Verge, donc je vais un petit peu en parler. Notre sexualité s'est dégradée petit à petit.
C'est-à-dire en termes de libido, en termes de...
De son côté, ouais.
De désir, ouais.
Moi, j'avais toujours de la libido à fond et beaucoup de désir pour lui. Lui, il avait plus de libido, je pense. Ce que moi, j'ai traduit en plus de désir, ce qui est assez douloureux quand t'es amoureux de quelqu'un. Et du coup, ça faisait des mois, quand confinement a commencé, ça faisait des mois qu'on couchait plus ensemble. Ou alors vraiment, j'avais l'impression d'imposer, en fait, ma sexualité. Et c'était pas très...
très agréable.
Non. Des fois, j'étais un petit peu en demande de dire... en fait, j'ai envie de toi, tout simplement. Et je suis amoureux et j'ai envie de ça parce que pour moi, ça en fait partie. Et d'un autre côté, hors de question. Enfin, je ne l'ai jamais forcé. En tout cas, je ne l'espère pas. Mais voilà, on a vécu...
Et il savait te l'expliquer, ça ?
Non, il était assez pris par son travail, par des projets. Enfin, il n'était pas bien dans son travail. Il voulait se réorienter, peut-être revenir dans sa ville d'origine, etc. Et il était plus, petit à petit, il s'est désengagé du couple, en fait. Et je pense que sexuellement, ben, en fait, c'est quand même un engagement aussi de faire du sexe avec quelqu'un. Voilà, faut être confortable avec la personne. Donc voilà, ça s'est un petit peu délité petit à petit et le confinement a eu raison de nous.
Coup de grâce,
confinement à distance en plus, donc lui dans sa famille, parfait, à la campagne, piscine, etc. Moi seul dans mon petit appartement, donc ça a été très 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 compliqué le premier confinement pour moi. C'est moi qui ai provoqué la rupture que je n'appelais pas du tout de mes voeux, mais j'ai dû la provoquer pour qu'il se passe quelque chose, en fait.
Bien sûr.
Et sauf que j'en ai pâti forcément. Donc ça a été un confinement très triste, très solitaire. Et c'est difficile de rompre alors qu'on ne peut pas voir ses proches. Il n'y avait personne qui pouvait être là pour moi. Donc je me suis senti bien seul. Et ma famille, bien sûr, je les ai tenus au courant, mais qui ne pouvait pas être là et qui n'est encore pas assez à l'aise, je pense, avec ce sujet pour...
Pour t'épauler, absolument.
Voilà,
ouais.
Pour m'épauler. Solitude, dépression, je pense, on peut le dire. Immense tristesse. J'ai beaucoup pleuré pendant le confinement. C'est revu après le confinement pour se rendre nos clés et se dire au revoir. C'était un moment
tellement dur, ouais.
Triste, très beau à la fois parce qu'on on s'est quitté en se faisant un câlin et en se disant qu'on était c'était peut-être pas le moment ou en tout cas pas la bonne personne. Mais du coup, t'es un peu partagé entre j'ai envie de mourir de chagrin et je suis content de bien finir une relation. Je trouve que c'est important de...
Bien sûr.
De quelque chose que tu as aimé, de le respecter, de le finir, de pas le finir dans un mélodrame. Et certaines personnes le font et parce que peut-être elles peuvent pas faire autrement.
Bien sûr.
Mais en tout cas, c'était agréable de le finir plutôt en beauté, entre guillemets.
Donc ça va mieux ?
Ça va mieux, ouais. J'ai dû quand même me faire aider parce que j'arrivais pas à passer à autre chose.
Donc un psy qui t'a aidé à surmonter ça ?
Ouais, exactement. À en fait déconstruire tout ce que j'avais idéalisé dans cette relation, pour moi, c'était...
Ouais, c'est ce que j'allais te dire, t'y as mis tellement, j'imagine aussi, de projections, d'attentes, il y avait toutes tes frustrations passées, etc., que tu lui as fait porter beaucoup, beaucoup de choses.
Ouais, je lui ai fait beaucoup, ouais.
Pas lui directement, mais cette relation, en tout cas.
J'ai mis beaucoup d'attentes et d'espoir dans cette relation.
Il y avait beaucoup de choses.
Et surtout aussi, je pense que, en tout cas, ce qui m'a beaucoup blessé, c'est de dire au revoir à ce que j'avais enfin
bien
réussi
sûr.
À construire après toutes ces années de privation
bien
et
sûr.
De frustration et d'attente très longue. Donc ça a été un peu dur de la laisser partir. Ça m'a pris un an, je pense.
T'as pu retrouver des partenaires entre-temps ?
Quelques-uns, mais quand j'en parle avec mes potes, je leur dis ça fait plus de 2 ans que j'ai pas eu de sexe de qualité. Parce que du coup, la fin de relation, c'était un peu la cata. Et depuis, maintenant, pour le coup, mes attentes en termes de sexe se sont élevées.
Bien sûr.
Et les coups d'un soir où je connais pas le prénom, etc., j'en veux plus aujourd'hui. Mmh. Et du coup, ça complique un petit peu.
Un peu plus, ouais.
Du coup, ouais, niveau. J'ai pas vraiment retrouvé ma libido depuis tout ça.
Mais après, ça évolue aussi, la libido.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu as envie, là, justement, pour toi, là, en termes de sexualité? Tu as envie de retrouver un peu ce super mojo, ou au contraire, tu vas faire qualité versus quantité? Comment tu t'arrives à positionner ça maintenant?
Maintenant, je suis plus du côté de la qualité. Mm-hmm. Et surtout, j'ai tellement aimé faire l'amour en étant amoureux que j'ai envie de ça, en fait. Mm-hmm. J'ai envie de retrouver ça et j'ai beaucoup dérivé du côté... je pense sentimental et spirituel, enfin spirituel, je sais pas si c'est le terme, mais...
émotionnel en tout cas.
Ouais, émotionnel, c'est ce que je disais à cet ex. Du coup là, je par exemple, dans notre relation, moi pour moi, l'embrasser c'était déjà faire du sexe. Et en fait, embrasser quelqu'un c'est déjà rentrer dans son intimité. Et du coup j'avais, enfin tu vois, je me contentais de choses beaucoup plus simples dans la sexualité. Et beaucoup plus sur le toucher, le charnel, enfin le contact avec le corps, beaucoup plus que des pratiques peut-être un peu plus BDSM soft, on va dire, ou en tout cas beaucoup de pénétration, etc. Même si j'aime toujours autant, mais voilà, ça me manque pas spécialement aujourd'hui.
Mmh. C'est plus la comme tu dis, la sensualité, le côté charnel, etc.
Ouais, la connexion avec la personne, le fait de sentir que tu vois, t'as un désir profond et que du coup, rien que faire un câlin, c'est hyper fort, en fait, de serrer quelqu'un dans ses bras, etc. Et je pense que pour le coup, le confinement a aussi beaucoup joué là-dedans, où en fait, tu perds tout contact physique, y compris avec tes amis. Et pendant toute cette période, j'avais qu'une envie, c'était de serrer quelqu'un dans mes bras. Et là, en ce moment, j'ai tenté de me dire, bon, je repars du côté Grindr, aventure d'un soir. J'en ai fait quelques-unes, mais ça me comble, à l'époque, ça me comblait pas de fou. Mais ça m'allait, on va dire. Là... voilà, c'est fini, je me dis ouais, ok.
Et tu disais que t'avais un désir d'enfant.
Ouais.
Et tu disais que l'épisode avec Rubin, de la toute première saison, t'avais vachement ému par rapport à ça, parce qu'il a eu un enfant avec sa meilleure amie.
Tout à fait.
Un enfant qu'ils ont en garde partagée, qu'ils ont fait en totale conscience, et ils ont construit un couple parental autour de ce petit garçon qui a bien plus de 10 ans maintenant. Du coup, tu as envie de ça plus tard ?
Clairement. Ouais. il m'avait beaucoup inspiré. C'est Ruben, c'est ça, du
ouais.
coup, je vais faire de bêtises.
Rubin.
Il m'avait beaucoup inspiré et beaucoup ému parce qu'il m'a montré que c'était possible d'être père quand on est gay et que ça n'avait pas l'air si compliqué, en tout cas quand il racontait. Et ouais, moi j'ai envie... je garde quand même cette part de mon éducation, je pense, assez classique. Ce que je me souhaite, c'est une relation stable et où on construit quelque chose. Et l'enfant, pour moi, en fait partie. Parce qu'aussi, j'ai ce besoin, cette envie de transmettre tout ça et tout ce que j'ai vécu. Et je me dis, j'ai envie de pouvoir accompagner un enfant dans son parcours et lui apprendre toutes ces choses-là et en faire quelqu'un d'ouvert et de bien, quoi.
Damien, est-ce que tu pourrais conclure cet entretien avec le mot de la fin ?
Le mot de la fin, le fameux. Alors, y a une citation qui m'a beaucoup marqué d'une personne qui n'est pas forcément... très toujours positivement perçu, c'est Jerem Star qui m'a beaucoup inspiré à un moment, enfin inspiré non, mais m'a beaucoup fait rire quand j'étais ado. Et il y a pas longtemps, j'ai écouté son interview dans un super podcast où il racontait son coming out.
Il a vachement évolué aussi, hein,
ouais.
Jerem Star. Hein.
J'aime bien cette histoire et tu vois, j'aime bien ce côté. Bon, je suis pas totalement au clair sur. Je crois qu'il y a eu des histoires un petit peu sombres à un moment donné et.
On ne sommes personne pour juger,
voilà.
On ne sait pas.
Je ne me suis même pas renseigné dessus, donc je ne vais pas donner un avis parce que je n'ai pas d'infos. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé son évolution et j'ai écouté un podcast où il parlait de son coming out. À un moment donné, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Il a dit « on ne devrait pas se justifier d'amour ». Et je trouve que c'est très vrai. Mmh. Et c'est un peu comme ça que j'ai envie de finir. Et ça, moi, ça fait beaucoup écho à mon histoire et à tout ce que je racontais tout à l'heure sur le coming out où en fait, je n'ai pas eu envie de me justifier, j'ai juste envie de vivre. Et je trouve que c'est une phrase très vraie, de se dire en fait, si on est amoureux de qui que ce soit et de la manière, de quelque manière que ce soit, on n'a pas à justifier, on a juste à vivre ce beau sentiment.
Merci Damien.
Merci à toi.
Merci à Damien pour sa confiance et d'être venu de Toulouse pour venir sur ce canapé rose. C'est un véritable plaisir de le rencontrer. Je tenais à vous dire deux choses. Première chose, comme vous l'avez sûrement constaté et quelques auditeurs et auditrices m'en ont parlé, il y a des ads qui sont, en tout cas des publicités qui tournent sur l'épisode. Je sais que ça peut être inconfortant pour certains. J'imagine que c'est pas toujours très agréable de se faire couper. Moi, la première, c'est pas ce que je préfère. Toutefois, maintenant que je suis de l'autre côté, je sais à quel point la production de podcast peut être peu coûteuse. Donc, la monétisation que m'apporte ces quelques ads me permettent de couvrir des frais très simples comme l'hébergement du podcast ou des menus frais que j'ai besoin de couvrir. Donc merci pour votre compréhension. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que cet été, il y aura des épisodes spéciaux. Je me suis beaucoup amusée à les faire. Ce sont des épisodes qui sont toujours autour de la sexualité, mais avec un traitement un petit peu particulier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de On the Verge.